Les blancs se sont eux-mêmes mis hors humanité.
Le blanc va être une vieille chose dépassée et qu'il y aura métissage puis disparition, mais et c'est ainsi.
Ce que vous appelez papier, c'est fait à partir du bois que vous avez volé en Afrique. Vous comprenez? Donc, normalement, ces papiers-là, c'est le droit des Africains.
Le suspect a dit qu'il était dérangé par les blancs. Il a dit qu'il voulait tuer des blancs, particulièrement des officiers blancs.
L'Europe a besoin de migrants. Elle en a besoin de façon vitale pour payer les retraites de ceux qui travaillent.
En Israël, le Premier ministre Benjamin Netanyahou a lancé un programme expulser 40 000 migrants en situation irrégulière. Ces derniers ont jusqu'à la fin mars pour quitter Israël, faute de quoi ils seront emprisonnés.
On appelle ça l'altruisme intéressé.
Bonjour à tous, chers amis, je suis heureux de vous retrouver pour une nouvelle émission de Démocratie Participative, saison numéro 5, épisode numéro 4. Je procède au rappel traditionnel de notre émission. Vous pouvez nous contacter sur notre adresse email, démocratie participative en un seul mot, pas d'accent sur démocratie, @protonmail.com. Je répète, démocratie participative en un seul mot, pas d'accent sur démocratie, @protonmail.com. Si vous souhaitez nous poser une question, si vous souhaitez nous faire une remarque ou nous communiquer une information ou un lien vers un article de presse, n'hésitez pas, c'est à cette adresse qu'il faut nous écrire. Donc je vais maintenant procéder à la présentation de nos membres et je vais commencer par un nouveau venu qui nous fait le plaisir de participer à Démocratie Participative. C'est Diabolix. Diabolix, comment vas-tu Diabolix ?
Je vais merveilleusement bien, bonsoir à tous, bonjour à tous, ça dépend du moment où vous allez écouter cette émission.
Oui, ça peut être à n'importe quelle heure de la journée. Alors, j'enchaîne avec Pierrot qui nous fait aussi le plaisir d'être là cette semaine, salut Pierrot.
Salut Gandalf et salut à tout le monde.
Magnav est aussi avec nous cette semaine, salut Magnav.
Salut à tous les amis.
Fulbert est aussi avec nous, peut-être nous annoncera-t-il un de ces quatre l'ouverture en grande pompe de sa cave. J'en ai vraiment besoin, Fulbert, de ta cave, va falloir accélérer les travaux. Comment vas-tu, Fulbert ?
Eh bien, Fulbert va bien, bonjour Gandalf, et bonjour à tous.
Et enfin, Sa Majesté, autorité spirituelle de cette émission, et bien au-delà, Derek, comment vas-tu, Derek ?
Salut à Pierre Gandalf, salut à tous nos participants et nos auditeurs. Écoute, ça irait mieux que si on avait une jambe coupée, mais voilà. C'est parti.
Avant de commencer notre émission, je tiens à inviter nos auditeurs et nos lecteurs à nous soutenir financièrement pour que notre aventure puisse perdurer. L'argent est le nerf de la guerre. Dont exclusivement en crypto-monnaie, plus particulièrement Monero, c'est la monnaie de notre choix, celle qui garantit votre anonymat. Nous avons présenté sur le site internet un guide simplifié pour nous faire des dons en Monero. Alors je résume à grands traits, hein. Ça passe par deux sites. Vous devez d'abord créer votre portefeuille personnel Monero sur le site mymonero.com. Donc tout est expliqué sur le site, mais je vous le dis quand même ici. Donc mymonero.com, c'est mymonero.com, donc mymonero.com. C'est un site qui vous permet de créer votre portefeuille où vous pouvez recevoir des Monero ou en envoyer à un destinataire. Bon. Et deuxièmement, allez sur binance.com ou binance.com, binance.com, qui est un site qui vous permet d'acheter des Monero. Alors brièvement, l'intérêt, c'est que vous pouvez acheter des bitcoins, premièrement, avec votre carte Visa ou Mastercard, et ensuite l'échanger pour des Monero, parce qu'on ne peut pas acheter des Monero directement. Une fois que vous avez fait ça sur Binance, vous n'envoyez pas de Monero si jamais vous voulez faire un don, ça s'adresse à ceux qui veulent nous soutenir volontairement, bien sûr. Vous n'envoyez pas directement de don depuis Binance vers Démocratie Participative. Vous envoyez les Monero que vous avez générés après les avoir échangés avec vos bitcoins, vers votre portefeuille Monero personnel que vous avez créé sur mymonero.com. Et de votre portefeuille personnel mymonero.com, vous l'expédiez à l'adresse du portefeuille de démocratie participative. Alors c'est un peu rébarbatif dit comme ça, mais à grands traits c'est comme ça que ça fonctionne. Tout est expliqué sur le site. On avait eu beaucoup de demandes dans ce sens, c'est-à-dire une méthode assez simple. C'est une méthode qui me semble être la plus simple. Voilà. Alors aussi, pourquoi le dire ? Alors d'abord parce qu'on a toujours besoin de soutien, puis ensuite parce qu'il y a quand même de manière récurrente des demandes pour l'ouverture d'une section commentaires. Mais la section commentaires ne peut pas être juste une section commentaires traditionnelle. Il faut un serveur spécifique, puisque c'est un logiciel spécifique. Si on veut, j'allais dire, être pro, quoi. Si on veut offrir quelque chose qui ait une certaine allure. Après, il y a du pour, il y a du contre. C'est-à-dire que c'est quand même un investissement. Et on sait que traditionnellement, c'est une minorité de lecteurs qui tient à commenter. Mais enfin bon, ça enrichit quand même considérablement les articles. Parce qu'il y a quand même des commentateurs qui sont très constructifs, très positifs, et qui offrent toujours des références, des citations. Ça permet quand même aux lecteurs d'en apprendre beaucoup, quoi. Donc voilà, c'est un projet que nous avons, mais que nous pourrons réaliser uniquement si on a les moyens financiers, hein, pour parler clairement. Voilà. Alors j'ai été un peu long, un peu rébarbatif, pour parler un peu d'argent, parler shekel, bon voilà, c'est pas la meilleure partie de l'émission, mais enfin, il faut quand même l'aborder, voilà. Alors maintenant que c'est fait, je vous propose de passer à la rubrique numéro 1, courrier des lecteurs. C'est la rubrique en fait qui nous permet de faire un peu le tour de France. Et là, il y a un lecteur qui a tenu à nous parler de sa ville à lui. J'avais pas sollicité, mais c'est bien. Comme ça, il y a des gens qui se manifestent. Alors, bonjour à tous, chers camarades. Cette semaine, je vous propose de continuer notre tour de France envahi. Après Lyon, Roubaix, Paris, la Savoie, une banlieue quelconque, la Vendée, voici Amiens. Ville de 130 000 habitants située à équidistance de Paris et de Roubaix. Homme de la campagne, j'ai découvert la ville il y a 3 ans pour venir faire mes études. De droite modérée jusqu'alors, j'ai rapidement compris que l'immigration était un énorme problème. Et il souligne « énorme ». Commençons par ma dernière anecdote. J'ai reçu un colis que je dois aller chercher chez un commerçant situé dans la zone nord de la ville qui est « grand remplacé ». En m'y rendant, j'assiste à la sortie de la mosquée où les bougnoules et les nègres en camis se mélangent, jouant au concours de celui qui a la plus grande barbe. Ce ne sont pas des jeunes, mais plutôt des pères de famille en ce milieu d'après-midi. Leurs voitures sont évidemment garées sur le trottoir, je continue ma route et arrive devant un bâtiment qui accueille plusieurs commerces. Un café que des arabes en terrasse, 2 boucheries halal, 1 supérette tenue par un arabe et un cybercafé qui permet aussi d'envoyer de l'argent à l'étranger. 50aine de jeunes, entre guillemets, selon l'expression consacrée par les médias, zonent devant ces commerces et doivent vendre de la drogue. Des Africains, mais aussi quelques blancs au milieu de tout ça, totalement assimilés au code du quartier. C'est l'assimilation à l'envers. Je rentre dans le cybercafé pour récupérer mon colis, je suis le seul blanc, des nègres sont déjà au fond sur les ordinateurs, un arabe est derrière le comptoir, un autre arabe ventru, lui, se concentre sur les paris sportifs, pas très halal tout ça d'ailleurs, je me dis que je vais vite passer, il y a simplement une Guinéenne devant moi qui essaye d'envoyer 50 euros dans son pays. Mais c'est sans compter sur la politesse des habitants du quartier, plusieurs jeunes vont entrer et me passer devant, je préfère ne rien dire, ne sachant comment je risque de finir. Surtout que la police rechigne à intervenir ici, nous y reviendrons. Arrive enfin mon tour, je prends ce qui m'appartient et je file rapidement, non sans remarquer, le nègre qui remplit de quelques pièces sa petite tirelire. Les commerces tenus par des colons musulmans ont une tirelire qui sert à recueillir les fonds pour construire une nouvelle mosquée, encore plus grande que l'actuelle. La ville a donné le permis de construire, soit dit en passant. De cette excursion en Afrique, une chose retient mon attention. J'ai croisé 100aine de personnes et je n'ai vu que 2 femmes, 2 négresses. Dans ma rue, en 3 ans, j'ai vu le grand emplacement à l'œuvre. Je vais commencer par une autre anecdote. Après les vacances estivales, je retourne chez mon boucher. En rentrant dans le commerce, je vois un arabe sortir de l'arrière-boutique. Tiens, le boucher a un nouvel employé. Je lui demande de la viande hachée. Et quand je baisse le regard, je m'aperçois qu'il n'y a plus que de la viande halal. Je tourne la tête et là, des sacs de semoule contre le mur. Plus de doute, ma boucherie a été grand remplacée. Que faire? Je ne veux pas financer un envahisseur. Je dis au bougnoul que je n'ai pas mon portefeuille et que je vais devoir partir sans rien. Trop tard, ma viande est déjà prête, il me la donne et me dit de payer plus tard. Trop honnête, je le ferai, mais je ne retournerai plus ici. Cet arabe n'était finalement pas un nouvel employé, mais le nouveau patron de la boucherie. Donc, dans ma rue, quand je suis arrivé, il existait un kebab, dont le réputé François Ruffin, qui habite à quelques centaines de mètres, fait la pub sur France Inter, en disant que ce sont de gentils musulmans. Il y avait aussi le coiffeur islamique, l'école et le collège à moitié grand remplacés, puis j'ai vu l'entrée d'une première boucherie halal, d'une seconde, d'un commerce de produits nègres, qui remplace la poissonnerie, et un restaurant africain. Ces nouveaux commerces sur un linéaire de 200 mètres seulement. Ailleurs, dans la ville, j'ai vu s'ouvrir kebab, coiffure islamique aussi, ou boucherie halal, toujours la même chose, hein, et ils ont beaucoup de clients. J'ai le plaisir, depuis mon domicile, d'entendre l'appel à la prière en provenance de la mosquée tous les jours. Avec les commerces islamiques et les voilés à tous les coins de rue, je me crois à Alger quand je sors de chez moi, et mieux vaut ne pas tomber au moment de la sortie des classes. D'ailleurs, au sujet des enfants, toutes les semaines, la ville distribue un journal local où sont notées les naissances et les décès. La catégorie décès, c'est à plus de 95% des blancs. Alors que les noms et ou prénoms afro-musulmans représentent entre 35 et 55% des naissances toutes les semaines. La ville est dirigée par des collabos, le maire, la grosse Brigitte Fourré, venue du centre et soutenue par la droite dure que sont les Républicains, a donné ordre à la police de ne pas poursuivre les « jeunes », entre guillemets, qui circulent sans casque sur des scooters, car en cas d'accident mortel, les forces de l'ordre n'ont pas les moyens de contrôler les bandes de Noirs et d'Arabes qui mettraient à sac la ville, comme ce fut le cas déjà lors des meutes en 2012, qui n'était sûrement qu'une répétition avant le grand soir. Cet ordre de la ville de laisser les envahisseurs musulmans tranquilles, je le tiens d'un élu qui m'avait expliqué ça lors d'une visite de quartier. En ce qui concerne mon cursus universitaire de sociologie, j'ai le droit au cours qui explique que le genre n'est qu'une construction sociale. À l'autre que la France a été construite par les immigrés, algériens en particulier, que l'assimilation n'a jamais été pratiquée en France, qui est un pays d'immigration, que ce sont les femmes qui ont fait la Révolution française, les femmes sont plus petites car les hommes leur ont piqué la viande lors de l'évolution, sans oublier la logorée habituelle sur Trump, Zemmour, les migrants, que la délinquance qui n'a rien à voir avec l'immigration, etc. En ce qui concerne les profs, un fait sa synthèse sur Ruffin, un autre travaille sur le RN, son collègue écrit les programmes de Mélenchon, un quatrième publie des travaux pour expliquer que l'islam c'est la France. Un autre nous fait cours, mais on ne sait pas si c'est en tant qu'algérien ou sociologue. Il y a aussi cette prof qui siège dans une commission pour statuer sur les pour savoir si les clandestins peuvent être considérés comme demandeurs d'asile ou non, ou celui qui fait les emails en écriture inclusive. Mes camarades de classe sont des écolos progressistes, qui ne voient aucun problème à l'immigration. Même si l'autre jour, ils ont été un peu choqués quand le prof a expliqué que les nègres chassent et mangent des albinos pour s'attirer de la richesse. Enfin, peut-être qu'il écoute vos démocraties participatives, celui-là, c'est possible, hein. Enfin bref, je suis dans un enfer idéologique, même si au demeurant, les profs sont sympathiques, ils font un travail de sape incroyable. Je m'oppose parfois, mais c'est bien dérisoire par rapport au temps de parole dont ils disposent. Le courrier continue. Vous voulez déjà commenter de ce qui a été dit avant que je continue, peut-être ? Qu'est-ce que vous préférez ?
Oui, petit élément sur Brigitte Fourré, donc la mairesse d'Amiens. Il faut savoir quand même que la construction de la mosquée a été validée par la droite aussi, hein, parce qu'elle vient du centre droit. Et donc, ils ont fait alliance avec l'UMP, donc puis certains membres de la droite forte, hein, la droite forte, donc qui construit des mosquées. Voilà.
Voilà. Elle est construite plus fortement, peut-être.
Ah. Oui, les mosquées de droite.
Ah bon, bah, ça va alors.
Ce sont des patriotes français qui ont vocation à voter Front National.
Effectivement. Alors je poursuis le courrier. En ce qui concerne les femmes, comme dans toutes les grandes villes, ma copine s'est déjà faite harceler, insulter, suivre, attoucher, mais jamais par des blancs. Je n'ai vu qu'une fois une demoiselle se faire importuner, c'était évidemment un bougnoul qui est parti prestement quand j'allais venir m'occuper de son cas. Une fois, une amie est en jupe pendant le ramadan, un musulman la croise avec ses deux gosses, et leur dit « Ne regardez pas, c'est haram !» Là, c'est la version gentille. Sinon, ce sont les Arabes qui draguent en tenant les femmes par le bras et quand ils sont éconduits, finissent par les traiter de putes. un grand classique. Hein. Pour ce qui est des transports et la circulation, sachez que si vous prenez le bus, vous serez entouré d'extra-européens et de boomers. J'espère qu'ils apprécient de voyager avec ceux qu'ils ont laissé entrer. Pour la circulation en voiture, il y a évidemment des blancs qui ne respectent pas toujours le code de la route, mais à chaque fois que j'ai eu un problème, c'était avec un arabe. Cette race est agressive. Ils sont en tort, mais refusent de s'excuser et t'insultent encore comme si c'était de ta faute. Aussi, vous avez souvent l'occasion dans cette émission de parler de l'entreprise de propagande idéologique qu'est l'éducation nationale. Le cas de notre auditeur vendéen était sidérant. Mais à Amiens, ils ne sont pas en reste. 120 collégiens et lycéens, dont certains de l'établissement au nom prédestiné, Rosa Parks, et 50 autres d'un centre de formation sont embarqués dans le diabolique projet nommé « Mes identités, ma France ». Qui a pour objectif de, je cite, « développer le vivre ensemble et apprendre l'histoire de France ». Ils ont rencontré Azouz Begag, ancien membre du gouvernement qui a réalisé un film, « Le Gaune du Shaaba », qui montre à quel point les Français avaient mal accueilli les Arabes lors du début de l'invasion migratoire dans les années 60 et 70. Un film pour faire culpabiliser ces petits Français et faire monter la haine anti-française de leurs camarades bronzés. En prime, ils sont tous repartis avec ce film en DVD chez eux pour le montrer à toute leur famille et leurs amis. Ils ont aussi visité lors de leur dernière sortie à Paris le musée de l'immigration et l'institut du monde arabe dirigé par le pédophile Jack Lang. Tout ceci est expliqué fièrement dans le journal de la ville où l'on peut suivre le programme d'endoctrinement de ces adolescents au fil des mois. À la fin, il y aura une exposition de leurs travaux qui auront pour but de montrer que chaque famille est immigrée et qu'il n'y a pas de Français de souche. Je précise que ce projet a fait des émules. Les villes de Lille, Lyon, Marseille et Cergy-Pontoise s'y mettent aussi. En résumé, Amiens, la petite Venise du Nord, avec sa magnifique cathédrale, est en voie de grand remplacement. Et les habitants n'y trouvent rien à redire. Et même s'ils étaient contre, que pourraient-ils faire? Sachez qu'à quelques semaines des élections municipales, le RN n'a même pas déposé une liste. Un jeune qui assiste, et ça c'est signé, un jeune qui assiste impuissant à la destruction de sa patrie, mais qui garde espoir, nous dit-il. Alors merci pour ce courrier détaillé. Alors lui, il est en zone occupée. Hein. Lui, alors il est vraiment, il est dans le milieu qui peut observer. Là, il n'y a pas plus islamique. Hein. On est voilà, dans la France, comme dit Hervé Le Braz, qui n'a pas connu de vague d'immigration significative, hein, comme vous le savez. Hein. Y a, comme dit Hervé Le Braz, il n'y a pas plus d'immigrés en France que dans les années 30.
Oui. Ouais.
Alors, messieurs, qu'est-ce que vous voulez dire, soit à notre auditeur ou de son témoignage?
Moi, j'ai noté dans la deuxième partie là, du témoignage, le film là qui est projeté, c'est quoi, aux écoles, le Gaune
oui.
du Shaaba, c'est ça?
Oui, un truc comme ça, d'Azouz Begag apparemment.
Alors c'est pas un truc comme ça, c'est très exactement ça.
Ah d'accord.
C'est-à-dire que ce film-là, ça fait 20 ans qu'il le fout à peu près tout le monde dans les écoles, puisque moi, étant plus jeune, je crois que c'est mais foutu ça au collège, donc ça remonte vraiment hein, du coup. Et oui, c'est pour te faire pleurer sur les gentils bougnoules qui sont allés dans des bidonvilles. Je sais plus, je crois que c'était du côté de Lyon, de mémoire.
D'accord. Ouais, mais pour reconstruire la France.
Il faut te rappeler à quel point tu es un enfoiré, hein, toi qui as l'eau courante et l'eau chaude, et le chauffage, pendant que Aziz, qui va se faire circoncire par toute sa famille. Dans le bidonville, lui doit partager sa chambre avec ses frères et sœurs multiples et sa mère et son père. Ouais.
Mais ils ont construit la France, la preuve, ils construisent des mosquées.
Oui, tout à fait. Mais voilà, bon, c'est tout ça pour dire que bon, il y a quand même ça stagne au niveau de la propagande, c'est-à-dire qu'on nous.
On n'innove pas. Hein.
C'est comme choix de Claude Lanzmann, tu vois, c'est ça. L'autre, c'est un petit peu plus vieux, ça fait 40 ans.
40 ans
qui nous le
Oui, dans toutes les écoles, systématiquement. Ouais.
Voilà, et je pense que Le Gaune du Shaaba, c'est le film qui doit aussi, depuis une vingtaine d'années, être obligatoire. Ça fait partie du cursus pour t'encourager à surtout ne pas penser à la préservation biologique de toi et de ta famille. Hein, du coup.
Alors, j'ose pas imaginer les royalties que touche le pauvre Azouz Begag si ce film est diffusé dans tous les collèges et lycées de France et de Navarre, plus probablement collèges, depuis 20 ans. Hein, c'est-à-dire qu'il doit toucher, quoi.
Plus tous ces fromages qu'il a garantis par la République française.
Bien
Parce qu'il
sûr.
cumule, hein.
Oui. C'est un ancien
C'est
ministre,
un ancien
il a une
ministre
retraite à
déjà.
vie. Hein.
Voilà, donc déjà, il a déjà sa retraite. Ça va, hein,
Il a été propulsé par qui, lui? C'est pas par Sarkozy, non?
Si,
Villepin.
Sarkozy!
Non, c'est Villepin, je
Oh.
crois que c'est Villepin.
Sarkozy, l'islamophobe?
C'est pas... Vous êtes sûr que c'est pas Villepin? Il me semble que c'était Villepin.
Ah, c'est. Oui, ou Chirac. Enfin, de toute façon, l'UMP, quoi. L'UMP, les Républicains.
Par la droite. La droite française qui veut dégager la racaille au Karcher.
C'est ça. Alors, phénomène, bon, il faut quand même, moi je compatis avec notre auditeur, je le remercie vraiment de nous avoir écrit. Là, c'est pour ça que j'aime bien les témoignages, c'est parce que, comme tous ceux qui nous écoutent, et même nous-mêmes, ne pouvons pas toujours être dans telle ou telle ville à observer ce qui se passe, et eh ben, certains de nos auditeurs sont nos yeux et nos oreilles. Et aussi, une voix. Et du coup, là, on est vraiment dans un quartier occupé. Donc, comme il dit, hein, voilà, je sors chez moi, enfin, j'entends l'appel à la prière. Alors, officiellement, c'est interdit en France, oui. Hein, bon, on voit ce qu'il en est. Tu veux acheter à bouffer quelque part, bon, bah, tu as que des boucheries halal, donc tu manges islamique, que ça te plaise ou pas. Quand tu sors, tu ne vois que des faciès d'Afrique ou du Moyen-Orient. Tu dois vivre au rythme du Moyen-Orient, hein, il n'y a pas de femmes dans les rues, les femmes sortent plus. Où sont les féministes où vous êtes? Nulle part. Hein, le féminisme à Amiens, bon, voilà. Et comment dire, le blanc rase les murs. Ce qu'avait dit, si vous vous rappelez, Jean-Marie Le Pen, qui a été condamné pour ça, il avait dit, je sais plus, dans 30 ans, je crois qu'il y a peut-être une formule comme ça, mais un jour, les Français raseront les murs dans leur propre pays. Il avait une formule comme ça, et les juges communistes l'avait condamné pour avoir déclaré ça, et ce que dit notre auditeur, bah c'est exactement ça. C'est un Français qui rase les murs dans son propre pays. C'est quand même effrayant, quoi. C'est quand même effrayant. J'ai entendu récemment, je sais pas si vous avez vu ça, c'était cette semaine, si c'est pas cette semaine, c'est il y a 10 jours, une note dite confidentielle, enfin ça a été présenté comme ça, de la DGSI, me semble-t-il, selon laquelle il y aurait 50 quartier, alors le terme quartier est flou, on ne sait pas ce que ça recoupe exactement. Bon, 50 zones urbaines qui seraient sous la coupe des salafistes. Bon, bah, je pense on peut la classer dedans, hein. Je vois pas trop. À moins que ce soit l'islam éclairé des lumières, ça, je sais pas, peut-être, hein, je suis pas versé. Qui veut commenter un peu là-dessus, sur le phénomène
Oui, alors à propos des profs, j'ai appris récemment qu'ils vont réformer les concours dans l'enseignement et ils vont réduire la part disciplinaire du concours à sa portion congrue, hein, je crois qu'ils vont la diviser par deux ou par trois. Et par contre, ils vont introduire une profession de foi républicaine et vivre ensembliste,
Oula,
où il
c'est...
faudra enfin, carrément réciter
La Shahada.
la au poil la Shahada républicaine et vivre ensembliste.
Mais qu'est-ce que ça veut dire, intégrer un machin? Qu'est-ce que, enfin, concrètement, c'est quoi? Qu'est-ce que...
Il y aura un oral que devront passer tous les candidats pour démontrer qu'ils sont bien parfaitement antiracistes.
Ah oui, d'accord, un exercice d'orthodoxie idéologique, en fait.
Exactement, un
Ah, d'accord.
exercice qui va sélectionner d'ailleurs les candidats. Donc oui, c'est
D'accord.
ça.
Ah ouais. Qu'est-ce que ça serait si on vivait dans un système soviétique, hein?
Oui, et
Franchement.
puis c'est vrai, et puis je pense qu'il y a tellement de nazis qui ont envie de bosser à l'éducation nationale
Ah oui.
pour faire
Faufiltré, là.
des petites fières têtes crépues des agrégés de grammaire que bon voilà, il va falloir un peu virer les nazis de l'éducation nationale.
Serrer des boulons un petit peu là. Diabolix, qu'est-ce que tu peux nous dire sur. Enfin, est-ce que ça t'inspire un truc? Est-ce que c'est l'expérience vécue à Amiens te dit quelque chose? Est-ce que tu as envie d'en dire quelque chose de
Oui,
particulier?
c'est le schéma purement classique. Généralement, ça commence par un magasin d'alimentation générale. Après, c'est soit une boulangerie, soit une boucherie. À partir du moment où le canevas commence à prendre, ben, faut pas se leurrer, les gars. À partir du moment où tu te retrouves avec des musulmans qui envahissent ton quartier, le prix au mètre carré, c'est zéro. Alors, à qui peux-tu vendre tes biens? Ben, soit à un masochiste profond, soit à un musulman. Donc en fait, la toile d'araignée se développe à une vitesse V'. Le problème, c'est que tant que c'était dans des quartiers pauvres, dans les grandes villes, ça se voyait pas trop. Maintenant, on est dans un exponentiel absolu. Et il est très clair que tout qui a un peu de pognon, dès qu'il voit son quartier commencer à se bougnouliser, ben, il se tire, il n'a pas d'autre solution.
Ouais, on a eu des auditeurs qui nous ont raconté leur expérience à ce titre-là, qui partaient, enfin qui fuyaient, enfin donc le white flight, hein, qui fuyaient une zone dans laquelle il y avait trop de bougnoules, et ils disaient, bon là j'ai trouvé une petite commune sympa, là c'est très très bien, je suis vraiment tranquille. Et puis en fait,
2 ans après,
ouais, 2 ans après, voilà, il y avait déjà, des... ah, tiens, ah, j'ai vu une voilée, il y avait deux moutards.
Ouais, moi pas plus tard que ce matin dans un coin qui est assez cossu, hein, où il
Ouais.
n'y a pas d'arabe, hein, en général, hein. Je m'arrête à un feu rouge et puis je regarde, je vois qu'il y avait un bistrot sur le côté et je vois une population que vous avez décrit McDav il y a un certain temps, c'est le bougnoule avec son café et son verre d'eau. Et ils étaient partout sur la terrasse. Il n'y
Ah
avait
ouais.
que des bougnoules. Alors c'est pas le kabyle, c'est clair, hein. C'est le bougnoule, espèce de semi-mauritanien, marron, avec une tête, une tête d'assassin. Et donc ils étaient là, une belle terrasse, une belle place toute refaite à neuf. Et ben, ils arrivent, ils prennent possession des lieux.
Café et verre d'eau, et on te plombe ta clientèle
Ah ouais,
et
te
on te la
plombe, te
rachète. Voilà,
plombe.
c'est ça, paf.
C'est ça.
Ben, j'ai un pote bijoutier, on est gentiment venu lui demander s'il était disposé à céder son commerce. Comme l'affaire était particulièrement sympa, ben, il a dit non. Résultat, sur un an, il s'est fait braquer 5 fois. Il a vite compris.
Ouais, voilà, c'est ça. Ouais, tu vois, c'est ça. Ouais, tout à fait.
Et le gros problème, c'est que, bon, tu peux aller déposer plainte, tu t'es fait braquer. Bon, ok, le problème, c'est que ils vont taper sur le clou jusqu'à ce qu'ils s'enfoncent, c'est-à-dire jusqu'au moment où tu dis, bon, ok, je vends. Le problème, c'est que tu peux vendre. Oui, ça, vendre, c'est pas un problème, mais à quel prix? J'ai un pote qui a, comment dire, il a acheté un bâtiment classé aux monuments ici. Il a investi un pognon de gueux là-dedans. Il s'est retrouvé avec derrière le bâtiment une mosquée. Le prix du mètre carré, c'est quoi?
Ah bah oui. Allez, la mosquée est donc construite après que lui ait fait l'acquisition.
Ah évidemment, ça tu
Ouais.
penses bien, les types ils sont arrivés, c'était un espèce de vieux bâtiment industriel, ils ont commencé à modifier les trucs, ils ont eu les autorisations pour pouvoir faire une mosquée. Bon ben le principe c'est que maintenant son quartier, ben attends, c'est fini quoi, c'est terminé. Et il reste au beau milieu un bâtiment absolument magnifique, architecturalement c'est une splendeur, mais tu vas le vendre à qui et pour combien?
Ah oui, bah des bougnoules pour une bouchée de pain, quoi. Voilà, en gros, hein, c'est.
C'est-à-dire que c'est très important de laisser des bâtiments architecturalement très bien construits pour que nos nègres et nos bougnoules puissent profiter à l'avenir de ce paysage. C'est des infrastructures qui, ma foi, ont été très utiles.
Oui, ça c'est clair que ça va être. On est en train de leur filer des perles au cochon. Mais je peux pas utiliser le mot cochon parce que d'abord c'est pas halal et puis en plus il faut bien se rendre compte que cet animal ne mérite pas d'être offert à ce genre d'individu.
Ah oui, non, c'est...
Une chauve-souris, peut-être.
Alors, le passage sur... Alors, il se trouve qu'il est... Bon, je passe brièvement sur la duplicité totale des élus qui sont prêts, enfin, qui vendraient père et mère pour être dans un conseil municipal, etc. Bon, ça c'est voilà, c'est qui participe grandement à l'accélération du truc, hein, je veux dire. Et la faculté, on a eu l'occasion de souvent en parler. Il parle un peu de sa situation. Bon, là, moi, je suis partisan d'abolir l'université française. On n'en a pas besoin. Ça sert à rien, en gros, pour moi, ça sert à rien.
Ouais, disons qu'il faudrait privatiser, enfin pour
Bon,
le
en tout
coup
cas,
que.
sciences humaines, on pourrait franchement
Ah oui,
élaguer.
Sciences humaines, on peut virer. Hein.
Ouais, on
Bah,
peut
c'est clair et
élaguer.
net.
Ouais. Le reste, on peut discuter, mais ouais, sciences humaines, ça sert à rien. Voilà, parce que ce sont en fait des maquis communistes, hein, bon, ni plus ni moins. Voilà, donc ils sont payés en fait à dégueuler ce que vous pouvez lire sur Twitter ou Facebook. Enfin, tous les pires trucs, voilà. Mais ils sont payés pour. Avec votre pognon, hein. Je précise quand même.
Bah oui,
Alors,
sinon c'est pas rigolo, sinon.
sinon, c'est pas drôle. Bon, bah, du coup, je peux pas dire qu'Amiens. Oui, la Venise du Nord, bon, bah, du coup, un peu moins. Oui, c'est Babelouette plus, déjà, hein.
Il y a aussi une chose extrêmement importante et qui a trait, mais à tout l'espace Schengen, absolument à tout l'espace Schengen. Quand tu te trouves dans un transport en commun, que tu as une nana qui se fait foutre la main au cul comme par hasard, par une chance pour la France, l'Allemagne, j'en passe et des meilleurs. La grande différence qu'il va y avoir entre l'espace Schengen et le reste de l'Europe, c'est que tout le monde va regarder, tout le monde va être outré, mais absolument personne ne lèvera le petit doigt. Si tu as le malheur en Pologne, en Hongrie ou ailleurs de foutre le cul de foutre la main au cul d'une nana dans un transport en commun, tu te prends toute la rame sur la gueule. De 7 à 77 ans, ils vont te massacrer.
Oui, mais c'est l'espace Schengen aussi, je crois, la Pologne.
Je sais pas s'ils ont des
Oui.
contrôles.
Sincèrement, je sais plus pour la Pologne, mais bon, tu peux l'étendre à tous les pays de l'Est, hein.
Oui, c'est-à-dire que oui, tu fais une distinction entre l'Europe de l'Ouest et l'Europe de l'Est, je suis d'accord avec toi. Mais après, Schengen, enfin, c'est étendu à tous les. La Bulgarie, c'est Schengen, par exemple. Hein, donc je pense pas qu'à Bulgarie, puisses avoir des bougnoules qui fassent n'importe quoi. Hein,
Moi, je compte quand même sur la France pour civiliser ces populations-là et apprendre quand même aux Polonais, aux Hongrois, aux Bulgares et aux autres.
Il faut apprendre aux Polonais qu'ils ont des origines dogons.
Voilà, c'est ça, et que comment dire, bah c'est non, la base de la civilisation, ça consiste à accepter que des nègres touchent le cul des blanches, sinon dans les bus, quoi, hein, les bus, les tramways, voilà.
C'est
Donc
quelque part, c'est Adam et Ève, hein. C'est comme ça qu'on
oui. Donc moi, j'appelle quand même, hein, Emmanuel Macron. Que je sais sensible à cette question, à adopter des sanctions, hein, économiques contre la Pologne, contre la Hongrie, et à tous ces pays réfractaires au progrès, jusqu'à ce qu'ils acceptent, bah, voilà, les viols collectifs, les mosquées, les kebabs, voilà, enfin voilà, voilà, je lance un appel en direction donc du camp du progrès, et je ne désespère pas. Peut-être que Varsovie deviendra Amiens, hein, d'ici 30 ans, par le jeu de la démocratie, espérons.
Je me demande quand même comment cette ville-là, qui est quand même un petit peu paumée entre Lille et Paris, enfin, il n'y a pas la mer, quoi. Comment ces Algériens sont arrivés là? C'est quand même assez mystérieux.
Bah, pour reconstruire la France.
Ah oui, c'est ça,
Bah oui,
j'avais oublié.
Ou
pour le
alors,
coup.
c'est des crevettes bizarres qui ont raté leur coup.
Oui, enfin, pour le coup quand même, c'est un peu historique, hein. Je crois qu'à Amiens, il y a quand même des assez vieilles communautés venues du Maghreb et qui ont bossé dans les quelques industries locales. Mais bon, le problème c'est
D'accord.
qu'ils étaient, ils devaient être, je pense, quelques dizaines de milliers, et maintenant ils font le quart de la ville, quoi, au grand minimum.
D'accord, donc c'est une
Oui, puis ils
tradition
continuent à
américaine,
arriver
si je
et
comprends bien.
ils bossent plus dans les entreprises. Il faut quand même le souligner aussi, ça fait peut-être une bonne trentaine d'années que. Mais comment dire, j'ai vu un papier, c'était sur Roubaix, mais il y avait eu un auditeur qui nous avait carrément écrit de Roubaix. Mais j'avais vu un papier sur Roubaix, là très récemment, je crois que c'est dans Valeurs Actuelles, je crois. Je crois que c'était sur la base de rapports de police, hein. C'était un petit peu au ministériel, hein. Donc, ils étaient un petit peu, ils surveillaient ça. Et alors, bon, j'enfonce une porte ouverte, mais Roubaix, c'est une ville islamique. C'est une ville
Ah,
islamique.
complètement,
Ouais,
complètement.
c'est islamique, c'est-à-dire que c'est le mode de vie islamique, ça vit au rythme de la mosquée, et il n'est pas possible, si vous voulez, comment dirais-je, de s'exempter de ce rythme-là. Hein. Vous ne pouvez pas déambuler dans les rues, manger un jambon beurre en plein Ramadan. À Roubaix, c'est pas possible. Ça va mal se terminer. Vous allez prendre une dérouillée au coin de la rue. C'est garanti. Et donc, la note en question disait, bon, bah, on a un problème. Les femmes. Parce qu'il notait que les femmes musulmanes sont de plus en adoptent de plus en plus le voile. Contrairement peut-être à une image qu'on pourrait avoir, que elles arrivent voilées. Et la deuxième génération, elle se dévoile progressivement pour devenir des beurettes. Et le phénomène que eux observent, enfin que les autorités observent à Roubaix, c'est un phénomène de renforcement de plus en plus net du port du voile et d'autres, comment dirais-je, adoptions de préceptes musulmans, quoi.
Mais Gandalf, attrape, c'est exactement la même chose.
Ah oui, dans d'autres villes aussi, hein, je veux dire, oui, tout à fait.
Ouais,
Trappe, il y a la variable nègre en plus, hein,
je rappelle quand même que Trappe, c'était une base militaire absolument magnifique. Faut voir ce qu'on a en ce moment.
J'ignorais que c'était une base militaire dans le passé.
Je
C'est une
sais pas
base militaire,
si.
maintenant. Mais pas de notre
Oui,
état.
c'est la base de l'État islamique. Oui,
Je
Magal?
sais pas si les auditeurs, peut-être qu'ils sont trop jeunes, se souviennent du gang de Roubaix. Mais alors, pour le coup, c'était pas des bougnoules, c'était des. Enfin, il y avait beaucoup de convertis dans l'affaire. Et c'est les années 90, hein. Donc, s'il y avait déjà du salafisme et du terrorisme musulman de haut niveau à Roubaix dans les années 90. Donc là, maintenant, ça doit être. Enfin, je veux dire, le. C'est pas. C'était lequel de terroristes qui se trimballaient tranquillement à Molenbeek.
Abdeslam, c'était
Ah oui, c'est
Abdeslam.
Abdeslam. Ah oui, il était en zone islamique, quoi. Il était chez lui, il pouvait se
Ouais.
bouffer son kebab tranquillement, les gens le reconnaissaient. Enfin, délire.
C'est ça, donc à Amiens, bah, vous donnez encore quelques années à Amiens et ça sera Roubaix, quoi. Et pas uniquement Amiens, moi j'ai entendu parler de Beauvais aussi, c'est catastrophique. Et puis combien de... Enfin Lille. Rappelez-vous d'Aubry, hein. Ah, 35% de Maghrébins, mais c'est génial!
Je trouve, excuse-moi de t'interrompre, Gandalf, mais
Non,
je
non, vas-y.
trouve que le beffroi de Béthune ferait une mosquée absolument superbe.
Bah, tu dois pas
Ah
être
ben,
le
pour
seul à
l'appel à
avoir
la
cette
prière, c'est
idée-là.
parfait.
Oui.
Oui, tu pourras balancer du PD du haut du beffroi.
Oui. Bah, vous savez, je pense qu'on pourra le voir de notre vivant, ça. Hein. Ah oui, hein, moi j'y crois assez. Hein. Au rythme où ça va, si rien change, oui, je
À
crois
la
tout à fait.
vitesse où ça va, c'est clair.
Ah oui. Hein. Je pense qu'ils mettront des mecs avec des RPG dessus aussi, comme ça. Enfin, oui, je le vois tout à fait. Alors, messieurs, je vous propose de passer au courrier suivant. On remercie notre auditeur, on lui dit de garder courage, de pas désespérer, et quand même de s'exfiltrer assez vite, hein, de sa zone d'occupation islamique, parce que bon. Ça doit être un des derniers blancs, donc peut-être qu'il le remarque même plus, mais bon. Sois prudent, cher camarade. Alors, deuxième courrier. Bonjour, chers camarades démocrates. Merci pour votre travail qui permet aux jeunes générations de gagner du temps. Oui, c'est vrai, c'est ce que j'avais dit dans une émission précédente. L'objectif, c'était de faire gagner du temps aux jeunes. En allant à l'essentiel et en abordant les problèmes comme il faut les aborder. Alors, j'ai 18 ans, je suis en terminale S dans un lycée privé catholique parisien. Je lisais Zemmour à l'époque. Cours d'anglais, on doit présenter un sujet d'actualité. Connaissant les penchants féministes de ma prof, je décide de parler des femmes voilées et de leurs conditions de vie en banlieue parisienne, sujet réellement féministe et autrement plus important dans la qualité de vie d'une femme que de savoir si le féminin l'emporte dans la grammaire française sur le masculin. Malheureusement, je suis coupé pendant mon brillant exposé par cette crouille infâme. Stop, tu arrêtes! Surprenant, n'est-ce pas? Donc sa prof était une maghrébine, hein. Plus tard dans l'année, pendant une pause, les élèves parlent des élections départementales. Chacun se prononce sur ses intentions de vote. J'avoue être intéressé par le vote de ce qui est autrefois le FN, décomposition immédiate des faces de Merlan Free. Ah, mais tu vas pas faire ça, ne vote pas alors. J'ai été surpris par cette réaction. Il est vrai que lorsqu'on est encore naïf politiquement, on ne sait pas les répercussions que cela peut avoir sur le quidam moyen. À leurs yeux, nous sommes le mal absolu alors que nous ne voulons que le meilleur pour notre pays et vivre en paix. Milieu d'année, j'écris un post sur Facebook. Je dénonce la montée de l'islamisme dans nos banlieues et les dangers que cela apporte. Tout le monde se fout de ma gueule, me traite de raciste et autres joyeusetés. Alors je précise que ça c'était à l'époque où il était donc au lycée. Donc c'était il y a quelques années en avant, c'était aux alentours de 2013-2014. Voilà, pour situer. Hein. C'est pas cette année quoi. Donc il met ça, il met un post sur Facebook où il alerte sur l'islamisme. Donc il y a des réactions très agressives. Et là il dit, puis arrive Charlie Hebdo. Donc là on est 2014, hein, début 2014 si ma mémoire est exacte. Ou 2015, enfin j'ai oublié. Je sors un second post, donc il publie à nouveau sur Facebook, et je me fous de leur gueule, donc de ceux qui avaient réagi avec agressivité quand il avait alerté sur l'islamisme. Lendemain matin, donc de la tuerie de Charlie Hebdo, hein, le sous-directeur me prend à part pendant la première heure de cours. Enlève ton post, excuse-toi publiquement sur Facebook ou on te vire. Il n'a rien trouvé de mieux pour contenir la haine des bougnoules du lycée qui en avait après moi et pour sauvegarder son image. Je me retrouve seul face à tous, pas un pelé pour me soutenir. J'apprends au passage que deux salopes de ma classe m'ont balancé à ce dernier, donc mon sous-directeur. Les jeunes, gardez vos opinions pour vous et n'en parlez qu'à des personnes dont vous êtes sûr. Le gauchiste n'ira jamais vous embrouiller de front mais fera son possible pour obtenir votre mort sociale dans votre dos. Il est plus judicieux sur le long terme de se cacher et de réussir professionnellement pour pouvoir investir dans les milieux nationalistes que de vouloir jouer au héros et trimer le restant de sa vie, car marginalisé. Je me suis tourné alors vers des groupes nationalistes qui m'ont apporté le soutien et la cohésion sociale dont j'avais besoin. Très important, nous dit-il, nous méprisons tous les bougnes, pourtant quand un rebeu ouvre une boucherie halal, ses collègues le soutiennent en achetant chez lui, ils sont communautaristes. Observez autour de vous, entre blancs maintenant, c'est celui qui vous baisera la gueule pour vous piquer une place de parking par exemple, c'est important de pouvoir compter donc sur des camarades. Autre point complexe, l'absence de femmes dans nos milieux, ça en rend dépressif. Plus d'un 90% des nanas sont des féministes écologistes putanaires qui ne veulent pas d'enfants et avec qui le moindre soupçon de nationalisme peut vous griller. Elles reviendront dans le droit chemin, croyez-moi, une demi-pédale sapée en fringues immondes des années 90 qui a peur de tout, de se battre, des noirs, des arabes et qui, bande mou, ne constitue pas un mâle alpha, donc susceptible de les intéresser à long terme, c'est ce qu'il veut dire. Donc gardez à l'esprit que vous êtes le nectar de votre pays, vous incarnez, donc là il parle des nationalistes qui tiennent tête, hein, vous incarnez le courage, l'intelligence, la compréhension. Vous êtes condamné à l'excellence, il est largement plus simple d'être gauchiste, de se dire tolérant, ouvert à la diversité, de baiser une zadiste de temps à autre, car c'est ce qui est mis en avant, ce qui est tendance et ne vous coûtera jamais rien d'un point de vue social et professionnel, aucune prise de risque. Fréquentez des gens comme vous, intégrez des groupes et ne restez pas seul, cela vous détruirait de l'intérieur. Faites un peu d'entretien physique, pratiquez des sports de combat, tenez-vous droit et la tête haute. Il faut avoir le physique de ses idées, réapprendre l'usage de notre colonne vertébrale. Le temps joue en notre faveur, je le vois de mes propres yeux. Il y a un clivage net, soit les jeunes, pour la majorité encore, sont aliénés mentaux, soit ils s'embrollent, ou alors ils sont comme nous et ont compris beaucoup de choses rapidement, carnés directement dans la merde. Ne perdez pas de temps à convaincre des gens irrécupérables, la réalité les rattrapera. On ne déplace pas un caillou, on le laisse dans le caniveau. Je vais maintenant ajouter quelques précisions sur votre dernière émission de démocratie participative. Il est clair que le social a une influence sur la génétique et le physique. J'en parlais avec un collègue, chez les nationaux ou les droitards, il y a souvent des belles gueules, des mâchoires carrées, il y a des regards perçants. A contrario, on trouve des visages flasques, une mollesse incroyable chez les soumis, donc c'est-à-dire chez les gauchistes. Une forme d'infantilisation aussi. Je vois des types de presque 30 piges se comporter comme des adolescents éternels là où nos pères avaient des situations. Ils sont plus faciles à manipuler car ne sont pas capables de se projeter dans l'avenir. Ça, ça me fait penser à des choses, ça. Le mot d'ordre de la génération de nos parents était « être meilleur que nos prédécesseurs ». Alors, je ne sais pas quelle génération ils parlent, je serais assez curieux. Pour la nôtre, ce sera juste de prouver que nous ne sommes pas des merdes. Alors là, il nous envoie vers un livre que j'ai pas lu. Il dit « Lisez le crack du sperme de Gérald Messadier, une lecture chiante, car ne comportant que des chiffres et des sources, mais décrivant un phénomène inquiétant mais bien réel. » En résumé, le gavage aux hormones des bestiaux que nous mangeons et le contact de nos aliments au plastique a réduit drastiquement le taux de testostérone chez l'homme et augmenté le taux d'œstrogène chez la femme. En tout cas, c'est sa théorie. Hein. C'est pour cela qu'on se retrouve avec des bombes sexuelles de 15 piges et des types gardant des gueules de gosses très longtemps. Parallèlement, la fertilité, le taux de spermatozoïdes, a baissé de moitié chez les hommes en 50 ans et le nombre de cancers du sein a pris de l'ampleur. L'étude montre que la situation ne s'arrangera pas avec le temps, car tout ceci est passé sous silence et nous ne devrions plus être en mesure de nous reproduire d'ici un demi-siècle. En tout cas, sauf correction peut-être. Je conclurai par 3 citations, mon courrier. Première citation. Être jeune, c'est être spontané, rester proche des sources de la vie, pouvoir se dresser et secouer les chaînes d'une civilisation périmée et oser ce que d'autres n'ont pas eu le courage d'entreprendre. En somme, se replonger dans l'élémentaire. Et ça, c'est Thomas Mann. Seconde citation. Tu es quelqu'un de bien, je le vois dans tes yeux et j'admire les gens bien. Mais aujourd'hui, il y a surabondance de gens bien. Il y en a des tonnes et ils ne valent pas 2 sous. Ils ne servent à rien. Ce ne sont pas des temps pour les gens bien. Ce sont des temps pour les gens violents, les assassins. Alberto Garlini dans Les Noirs et les Rouges. Troisième citation. Nous n'avions pas 20 ans et déjà nous savions que nous ne composerions pas avec ce monde où croissait chaque jour la violence, la misère, l'injustice. Nous ne voulions pas de ces banques, de ces parts de marché, de ces écoles de commerce. Nous haïssions ces centres commerciaux, ces satellites de télécommunications, ces éditorialistes payés à la ligne. Nous vomissions sa bouffe à grande vitesse, sa pensée à grande vitesse, ses loisirs à grande vitesse. Nous n'avions pas 20 ans et nous étions décidés à ne jamais nous rendre, à combattre jusqu'au bout ce monde qui condamnait les hommes à n'avoir plus ni âme ni honneur. Et ça, c'est manifeste d'une génération. Et c'est signé un zouave. Je remercie ce jeune homme pour son courrier. Là aussi, c'est un courrier très dense, expérience personnelle, évidemment. Qui veut réagir et sur quelle partie ?
Alors, très beau courrier, notre ami parisien. Alors, moi j'aimerais réagir au fameux livre là, de Messadier, Spermoire, parce que justement ça fait lien avec la PMA. Parce que dans la plupart des cas de PMA pour les hétérosexuels, en fait, c'est pas vraiment le couple qui a un problème de fertilité, c'est l'homme. Donc on va bombarder chimiquement la femme de produits pour qu'elle puisse dégager beaucoup d'ovocytes. Et en fait, on insémine du sperme qui n'est pas le sperme du père. Hein, donc en fait, c'est une fécondation avec donneur anonyme. C'est ça une PMA, ni plus ni moins. Et vu que le sperme est congelé, bah, il faut surstimuler les ovocytes pour qu'elles puissent... comment dire, accepter les spermatozoïdes. On met une protéine dessus, en fait, qui attire les spermatozoïdes. Et c'est une réalité. Alors, il y a les perturbateurs endocriniens, ça c'est clair et net. Je pense qu'il y a également le confort, peut-être un petit peu une baisse de la sélection naturelle, c'est possible.
Bon, on avait parlé la semaine dernière, en fait, de l'expérience soviétique du renard argenté, où on voyait, en fait, que la domestication et la sélection... chez les renards argentés par les chercheurs soviétiques, des individus les plus promptes à rechercher le contact humain, génération après génération, ça aboutissait à une modification profonde de l'apparence, de la structure du crâne, du comportement. Enfin, c'était une véritable révolution, je crois, en 2 ou 3 générations déjà. Bon,
exactement. Et ouais. Ce qui se passait également, c'est que les périodes de chaleur étaient beaucoup plus fréquentes chez les femelles.
C'est ça.
Mais ce qui se passe également, c'est qu'il y a il y a, en fait, c'est comme la différence entre les bonobos et les chimpanzés normaux. S'il y a des comportements sociaux qui sont particulièrement différents, et il y a une forme de sexualisation permanente. Mais pour autant, les hommes ne sont pas plus fertiles et n'ont pas plus de spermatozoïdes. N'ont pas plus de sperme. Et c'est un vrai problème, très honnêtement. Je m'intéresse à ces sujets depuis longtemps. Et enfin, je pense que ça doit faire au moins 30 ans qu'on en parle. Il y a aussi un autre problème avec les perturbateurs endocriniens, de tout genre, c'est la baisse du quotient intellectuel, y compris chez les blancs, hein, faut pas se leurrer. Hein, la baisse du quotient intellectuel moyen, c'est pas une simple question d'immigration, c'est le cas. Mais il n'y a pas que ça. Hein. Il y a un très bon reportage qui a été fait sur Arte, qui montre comment généralement dès le enfin dans la période néonatale le bombardement chimique du perturbateur endocrinien a tendance à faire des abrutis et beaucoup aussi des micropénis chez les garçons. Donc c'est une vraie saloperie.
Et en plus, pour pas parler de parce que ça, il faut en parler,
pas parler des nanas qui boivent, qui
et qui picolent
picolent
et qui fument, et qui fument aussi, hein.
Ouais,
Pendant la grossesse.
je crois que c'est il y a 3 000 cas par an de syndrome d'alcoolisme néonatal.
Oui,
C'est énorme, hein.
3 000 cas reconnus.
Ouais,
Je pense
reconnu.
tu peux multiplier par 50 le nombre de cas
Oui, et
réels.
puis en plus tu peux avoir simplement des altérations, mais qui sont pas aussi spectaculaires, mais qui sont de vraies altérations sur le bébé, quoi, hein, ça c'est tout à fait certain.
En fait, il y a aussi une chose extrêmement importante qu'on a une fâcheuse tendance à oublier à chaque fois. La Défense nationale, chaque année, fournit les rapports sur l'état des personnes qu'elle engage. À chaque fois, c'est toujours le même problème. Les gens ne font plus de sport. Il n'existe plus de travail physique. Alors, on s'étonne qu'on ait des problèmes de santé, mais à partir du moment où on a des ados qui font pas de sport, qui sont scotchés sur leur ordinateur, qui sont scotchés sur leur smartphone, c'est clair qu'à un certain moment, on paye cash ce qu'on a vécu.
Oui, c'est absolument vrai. J'ai souvent parlé avec des militaires qui n'étaient pas non plus très très vieux, des gens de 35-40 ans, et qui m'ont dit qu'il y avait une baisse drastique de la qualité humaine chez les jeunes. Ça, c'est une réalité.
Ben, ils foutent plus rien. En fait, ça fait 30 ans. Si on regarde les statistiques, ben, depuis le développement des téléviseurs et maintenant des ordinateurs, les gens rentrent chez eux, ils s'ouvrent une bière, ils se prennent un verre de vin, ils s'écroulent devant leur poste de TV et puis c'est terminé.
Alors, il y a un point sur lequel je veux rebondir. J'ai bien aimé la comparaison phénotypique droite-gauche. Alors, évidemment, c'est peut-être un peu. C'est pas aussi schématique, hein, je veux dire.
Oui, c'est en général,
C'est
quoi.
en général. Mais c'est logique, en fait, parce que ce qu'on appelle la droite et la gauche, mais je parle pas des partis, je veux dire, je parle du type d'idées qu'on y trouve. Et c'est encore plus marqué à mesure qu'on s'approche, on va dire, des idées les plus nettes dans ce qu'on appelle schématiquement la droite et la gauche, on voit très clairement que les idées de droite et de droite dure, ou au-delà, sont en fait des idées masculines. Hein, l'ordre, la discipline. Je dis pas que c'est forcément ce qu'on retrouve dans les organisations de droite, hein, c'est pas ça que je dis, hein, parce que c'est souvent l'anarchie. Parce que les personnalités sont assez marquées. Mais ce que je veux dire, c'est que comment dirais-je, les attendus sont quand même des attendus qui touchent à ces questions-là, quoi. Alors qu'à gauche, on est plutôt dans le féminin.
Absolument.
C'est les idées de tolérance, comment dirais-je, l'autogestion, les trucs comme ça. Alors ça me fait marrer, parce qu'en pratique, les mecs de gauche sont quand même plus organisés que les mecs de droite, hein, en général. Ils agissent plus collectivement. Mais en du moins, ce pourquoi ils prétendent militer sont quand même des idées femelles, quoi. Ce qui n'empêche pas l'extrême gauche d'être très violente. Mais psychologiquement, la gauche est féminine et la droite est plutôt masculine. Mais je dis encore une fois, c'est là je parle plus de la symbolique et de l'inconscient collectif, hein. Et donc ça me surprend pas du tout ce qu'il dit. Je suis quand même assez d'accord. Il suffit de regarder un... Bon, alors maintenant, c'est moins vrai, parce que finalement, comme la dégénérescence, elle est généralisée, on peut plus prendre un échantillonnage dans la vie politique publique, parce que ça veut plus rien dire. On peut pas aller au FN et trouver des mecs qui ont des gueules et tout, parce que ça existe... Voilà, t'as des Fiottes, t'as Marine Le Pen, bon, on trouve plus de vrais bonhommes.
Enfin, on ne trouve plus d'hétérosexuels.
Ouais, on trouve plus d'hétérosexuels. Enfin, là, je parle dans les cadres, hein, je parle dans les cadres.
Oui, d'ailleurs, je profite, cher Gandalf, du fait que tu évoques cette question-là. Pour te rappeler que le camp national est en deuil aujourd'hui.
Pourquoi ?
Puisque Michou est mort. Donc, je viens de jeter un coup d'œil sur les.
C'est pas vrai.
Ça pleure à chaudes larmes. c'est vrai. Hein,
bah j'attends le.
N'exagère pas.
Hein. J'attends le tweet de Jean-Marie Le Pen. Hein. J'attends le tweet de Jean-Marie Le Pen.
Bah oui, je sais qu'ils se fréquentaient. Hein, les deux.
Ah bah, non, mais bien.
Il y a déjà eu Florian Philippot, ancien vice-président de France, déjà, bon, qui est parti. Ah, il est allé de sa petite photo, n'est-ce pas, Et puis, notre auditeur a parlé un petit peu des gens qui avaient des mœurs bizarres et qui ne pensent, enfin, qu'ils font de la politique pour leur zizi. Oui, ça, on connaît ça. Ça n'est pas que l'apanage de l'extrême gauche, malheureusement. Hein. Ça arrive.
Mais Macron doit être ému aux larmes.
Oh, je pense qu'il y a plus d'émotion du côté du Rassemblement National.
Oui, ouais, je crois. Hein. Marine Le Pen doit, en toute sincérité, être éplorée. Hein. Oui. Pierrot, veut-il parler ? Fulbert, qu'est-ce que vous avez envie de nous dire de ça ?
Ouais, je rebondis vite fait sur l'histoire de fertilité dont on parlait. Je crois que toute la bouffe industrielle, de façon de manière générale, bon, en fait, c'est pas je crois, ça a déjà été prouvé, fait baisser la fertilité. Ce qui est malheureux, c'est qu'effectivement, qui est-ce qui consomme de plus en plus de bouffe industrielle ? Bah, c'est plutôt les jeunes générations. Moi-même, d'ailleurs, effectivement, tu sais, quand tu veux gagner du temps, effectivement, tu as cette facilité, et c'est pas forcément une bonne chose. Puis aussi, tout un tas de comportements sociaux, tous les comportements de contraception, effectivement, vont te faire baisser ta fertilité, je veux dire, même de manière chronique, pas juste dans l'acte. La consommation évidente de pornographie te fait baisser ta fertilité, parce qu'effectivement, le principe de la pornographie, c'est l'acte masturbatoire au final qui te fait baisser en fait la qualité de ton sperme. Et disons que les juifs doivent bien rigoler, quoi, quelque part. Les blancs ne font plus d'enfants et en plus, ils ont de moins en moins de capacité d'en faire.
Alors, messieurs, je vous propose de passer au troisième courrier. On remercie en tout cas notre auditeur pour ce courrier qui apporte. Une touche de sensibilité, je trouve. Troisième courrier. Alors ça, c'est quelqu'un qui vivait à l'étranger, qui revient en France. Attention, accrochez-vous. Chers amis démocrates, après avoir passé de longues années aux États-Unis, j'ai décidé de revenir dans ma chère petite ville d'Auvergne il y a à peu près 3 ans. Et quel changement j'ai vu dans ma ville. Elle s'était alors marronisée à vitesse grand V. Et oui, je découvrais que la République nous avait implanté des nègres jusque dans nos campagnes. Il y a même une caserne de l'armée de l'air, pas très loin de chez moi, désaffectée, qui a servi de baraque pour refourguer des migrants de Calais. Quelle ne fut pas ma surprise en regardant France 3 et les infos régionales il y a à peu près 3 ans, quand je voyais les mêmes nègres de la dite caserne faire une manifestation devant la gendarmerie pour protester contre le fait qu'on leur servait pas assez de viande. Effectivement, je me rappelle de cet épisode. Étant actuellement à la recherche d'un emploi, je répondais à une annonce pour un poste de veilleur de nuit dans un hôtel pas très loin de chez moi, où bizarrement, je voyais sortir des grappes de Wakandais très régulièrement depuis plusieurs mois. J'ai reçu une réponse pour un entretien auquel je me suis rendu. La directrice m'accueille pour un entretien d'environ une quarantaine de minutes qui s'est vite transformé en vidage de sac en règle. Cette solide quadra avait vraiment besoin de parler. Elle est claire d'entrée et me dit qu'il y aura un volet social au travail, et moi, feignant de ne rien savoir, je pose la question « Mais qui sont tous ces Africains, des migrants ?» Et là, elle me dit en chuchotant « Chut, il ne faut pas dire migrants, mais MNA, mineurs non accompagnés. » Imaginez que migrant, qui était un terme d'extrême gauche au départ, est devenu tabou, parce qu'il a été diabolisé.
Attends, les fameux MNA, c'est des types qui ont 30 piges, qui ont des gueules de daron, bah, et qui sont accompagnés par des flopés de grosses assistantes sociales, mais c'est absolument pas MNA, enfin, c'est reste du métèque, hein. Voilà le terme approprié.
Nos auditeurs se rappellent peut-être de Faudé.
Faudé, mineur.
Mineur, hein, présenté comme tel sur France 3, qui avait
c'était sa profession, hein, il est dans
les mines. De oui, mineur.
Les gens se rappellent du chat, ils ont eu beaucoup plus d'empathie pour le chat.
Ça, c'était à Nantes.
Ah oui!
C'est pas le même,
Faudé, il avait 15 ans.
C'est pas le même, oui.
15 ans, Faudé, mais en fait, il en avait 45.
Il y a beaucoup de mineurs non accompagnés en France qui demande à être adopté.
Très curieusement, se retrouve dans des foyers où le père est absent, où une blanche de 40 ans et plus est avec un moutard de 13 ou 14 ans et qui a l'air d'être très attaché à la délivrance éclair de titre de séjour, donc à son animal de compagnie. Hein. C'est quand même récurrent. J'invite nos auditeurs qui n'ont pas compris encore l'arnaque à creuser. Alors, je poursuis l'article.
Alors, moi, j'en ai vu très récemment. C'était des Afghans et ils traînaient en bande, mais ils sont tout à fait accompagnés. Hein. Je ne sais pas. Dans ma petite ville, je crois qu'ils sont plusieurs centaines, et ils ont des logements, ils ont des apparts, on leur file de l'argent de poche. Ils ont des stages, t'as des blancs qui se bougent pour leur trouver des emplois, ils ont rien à faire, hein. Ils ont même pas à proposer un CV ou quoi que ce soit. On leur torche le cul de A à Z.
Oui, je crois que.
Rappelons-nous de cette famille tchétchène qui a été logée par la paroisse, je crois, ou la mairie.
Ah oui, bah Vendée, là, on était en Vendée. Oui.
Voilà, en Vendée, qui avait chié partout, hein, pour remercier.
Oui. Et insulter ses bienfaiteurs, hein, voilà. Mais comme nous avait dit l'auditeur dans son témoignage, les bienfaiteurs en question, après avoir assisté au saccage de l'appartement qu'ils avaient prêté à cette famille et s'être fait insulter donc par ce pieux musulman, n'ont pas changé une virgule à leur idéologie. Hein. Ils sont restés droits dans leurs bottes, toujours aussi xénophiles, pathologiques, pour l'immigration, l'ouverture, la tolérance, les nègres, voilà.
Enfin, ces gens viennent payer nos retraites.
Ah oui, oui, enfin, oui. Bien,
voilà, tout hein, à fait. Faut être au courant. Hein.
Alors, notre auditeur continue. Alors, donc, elle chuchote, hein, donc on sent un peu quand même. On sent qu'on est dans un pays libre, hein, quand vous voyez que les gens sont obligés de chuchoter comme ça, messe basse. Bon. Elle me dit d'ailleurs ouvertement qu'aucun n'est mineur. Ah, et que ces gens-là ne fuient ni la guerre, ni la misère, ni la guerre, mais que tout simplement, ils se sont tous fait foutre à la porte par le nouveau mari de leur mère en Afrique. C'est un truc culturel, me dit-elle. C'est la première fois que j'entends cette histoire. Apparemment, c'est ce que l'assistante en question leur dit, en fait, ils se font virer de leur foyer en Afrique. Donc je lui demande si tout se passe bien, dans le meilleur des mondes, elle me répond en faisant une moue peu convaincante, et elle me dit alors qu'à un moment, c'était un peu trop. Là, à l'accueil, il y a 100 migrants et maintenant ils ne sont plus que 27, donc nègres, car la situation devenait explosive. Donc en fait, on a réduit le nombre de négros dans le site. Elle me dit d'emblée qu'une partie du travail de veilleur de nuit consiste à laver les vêtements de tous ces nègres. Évidemment, à ce moment, je me dis que je ne pourrais pas effectuer ce travail. Elle me raconte la fois où il a failli y avoir une émeute car les repas n'avaient pas été livrés à temps. Elle a commandé alors en urgence une centaine de kebabs. Évidemment, ils se les ont volés entre eux et certains ont mangé plus que d'autres. Elle me raconte aussi la fois où un nègre n'a pas aimé la nourriture, il a balancé son plateau repas par terre. Ou alors, cette autre fois où un nègre avait fait tomber son morceau de poulet par terre qu'elle lui avait demandé de ramasser. Il a bien évidemment refusé et elle n'a rien pu faire. Apparemment, elle lui aurait fait la leçon en lui disant « Tu peux prier autant que tu veux pour montrer que tu es un bon musulman, mais tu ne respectes rien. » Elle avoue s'être fait frapper une fois Quant au buffet, au petit déjeuner, elle a pris la pince du panier au croissant, donc, et pinça sans le faire exprès l'auriculaire d'un Wakandais, donc elle est en train de distribuer les pains et à pincer un des clients, qui avait décidé de se bouffer un croissant. Ce dernier se retourna et la frappa si violemment sur le bras qu'elle eut une ecchymose et décida même de porter plainte auprès de la police. Bien sûr, le nègre en question fuga et ne fut jamais poursuivi. Il y avait une autre histoire d'un rebut venu d'Afrique qui se confiait sans cesse à la réceptionniste et lui disait et faire des cauchemars toute la nuit. Au bout d'un moment, il avoua avoir été un tueur à gages en Afrique. Bien évidemment, tout ce beau petit monde est musulman et doit manger halal, peut-être que la directrice aussi d'ailleurs mangeait halal. Après m'avoir raconté ce genre d'histoire pendant pas mal de minutes, la directrice me sort un « Mais dans l'ensemble, ça se passe pas mal, même si on ne connaît pas le passé de ces gens. » Et pendant l'entretien, je ne peux m'empêcher de penser à la victoire de BHL et autres Atali qui seraient tous contents d'apprendre qu'ils sont en train de ruiner la France profonde avec ces ordres, ces ordures de déchets venus d'Afrique qu'on nous impose au plus profond de nos campagnes. Je ne pouvais m'empêcher de faire des grimaces à chacune des histoires qu'elle me sortait. La directrice m'a confié tout de même qu'elle était contente de ne plus avoir d'Algériens, car ceux-ci se plaignaient sans cesse de la nourriture. Ce n'est peut-être qu'une coïncidence, mais depuis quelque temps, le maire de la ville a décidé de faire une campagne publicitaire pour responsabiliser chaque citoyen à la propreté, car oui, ma ville devient sale, mais n'y voyez surtout aucun lien avec l'immigration africaine. Il y a aussi des associations de boomers pro-migrants financées par l'État. À la fin de l'entretien, la directrice saisit parfaitement mon profil, regarde mon CV et me dit « Mais de toute façon, vous allez vous ennuyer ici. » Et puis elle me lâche « C'est tellement enrichissant ici, j'ai vraiment beaucoup appris. » J'en appelle tout particulièrement à la sapience du cardinal Déric, chef de l'église de négrologie, qui a beaucoup d'adeptes ici en Auvergne. Chers amis démocrates, merci encore pour tout votre travail. Et c'est le Bougna Facho qui nous a livré son témoignage en immersion, donc dans un, dans un centre hein, de triage de nègres, en fait. Qui veut réagir donc sur bon c'est finalement bon il se sentait une vocation de veilleur de nuit et puis finalement il a dit non ça vous tenterait de garder des mineurs isolés je sais plus comment ils disent là accompagnés non accompagnés des mineurs non accompagnés en Auvergne profonde des Afghans des Algériens qu'est-ce que
bah disons que si on me file 2-3 bergers allemands et un Luger, c'est possible. Je veux bien même le faire gratos, le boulot. Non, mais de toute façon, dans l'ensemble, comme elle a dit, hein, cette bonne femme, tout se passe bien, à part les tueurs à gages africains, tout se passe bien, quoi.
Les ecchymoses, les crises, ouais, non, bah oui, c'est putain.
Ouais, quand une personne dit trop fréquemment, ça se passe très bien, il n'y a aucun problème, c'est que généralement, il y a plein de problèmes.
Non, mais... Je crois que dans un souci d'adaptation... Il faudrait faire un geste vis-à-vis de ces populations. Je me dis que quelque part, m'essayer au cannibalisme, ça n'a pas l'air mal. Si les Chinois mangent des chauves-souris, pourquoi pas des migrants ?
Alors, c'est des bêtes malades, hein. Tu vas attraper des trucs. Hein. C'est...
Oui, on peut donner à manger des Chinois, peut-être. Il y a des Chinois.
Ah, alors là, déjà, c'est une possibilité, oui, oui. Alors, Derek, tu as entendu ça, notre... Notre auditeur a candidaté pour être veilleur de nuit dans un centre de tri de nègres. Oui. Et finalement, il a un peu laissé tomber. La bonne femme, donc, qui s'est fait tabasser par sa clientèle, qui a dû écouter à la réception les confidences d'anciens tueurs à gages venus d'Afrique, qui font des cauchemars et autres altercations. Bon, qu'est-ce que tu peux nous dire sur tes adeptes d'Auvergne ? Sur les Arvernes.
Ouais, bah écoute, là en l'occurrence, moi j'ai bien aimé le MNA, hein, c'est assez intéressant.
MNA, voilà, c'est. Il faut, elle a dit chute, hein. Chut, on dit MNA. On dit pas migrant, tu sais, je veux dire, maintenant quand tu dis migrant, c'est comme quand tu dis nègre pratiquement, tu sais, je veux dire, non, chut.
Bah, en fait, oui, c'est ça. C'est-à-dire qu'ils essaient de changer, de mettre des mots un petit peu moins. Ils sont périphériques par rapport au problème. Donc au départ, on dit des nègres.
Oui, après, ouais, moins connotés, on va dire. Voilà,
après,
ouais.
Des noirs, etc. Donc, là, c'est des migrants. C'est des trucs qui migrent. Ça va. Ça, Ils sont là, et après ils sont plus là, après ils reviennent, ça migre.
Comme les oiseaux, quoi, comme les grues cendrées ou le
saumon. Voilà, c'est ça. Mais au final, comme ça représente à chaque fois le même caca, en fait, c'est le mot se fait pourrir par le nègre. Donc ça, moi je sais pas, il va falloir qu'on imagine quelque chose pour définir le nègre, trouver un mot, je sais pas, un truc qui reçoit un bonbon, tu vois, par exemple, une friandise, je sais pas, quelque chose, ou peu importe. Enfin,
Haribo, Haribo.
Oui, des Haribo, du réglisse, les fraises Tagada. Appelons les nègres les fraises Tagada. Je peux te garantir que d'ici 6 mois, la fraise Tagada sera... sera un terme qui sera interdit d'utilisation en France.
Et les têtes de nègre.
Des petits garçons et des petits enfants iront demander des fraises Tagada dans une confiserie. On appellera la police. Enfin, peut-être pas en France, mais en Angleterre, oui, c'est sûr. Là-bas, ça on le fait déjà. Mais ouais, le MNA. La clientèle, donc le. Bon, oui, notre. Je pense qu'il s'est trompé d'endroit. Hein. Bon, tiens, je cherche du boulot.
Veilleur de nuit, tu sais, le mec, il se dit, ah oui, veilleur de nuit.
Oui, oui, veilleur de nuit. C'est une officine qui est là pour faire passer du nègre en contrebande.
Oui, mais attention, hein. T'as noté, hein. Oui, votre boulot va consister à laver le linge des nègres. Je sais pas si t'imagines, ça, c'est. Laver les slips des nègres. Laver les slips des nègres.
Oui. Oui, pour vous.
Quel taf, X. Quel taf.
Quel taf. Oui, ouais, bah c'est plus un taf là, c'est un sacerdoce.
Hein. Oh, l'horreur. Imagine, toi, t'es obligé de faire un truc comme ça parce que t'as rien d'autre pour payer ton loyer ou remplir ton frigo. Mon Dieu, le cauchemar.
Ouais, je me vengerai, ça finirait certainement très mal cette histoire.
Oui,
ouais.
Oui, je crois, oui.
Au bout d'une demi-journée, j'échafauderai des plans pour régler ce problème.
Oui.
Alors, imagine, t'es un jeune blanc déclassé, et tu te retrouves à torcher le cul de types qui sont en réalité plus vieux que toi, qui sont fait virer de chez maman pour 1000 balles par mois. Quoi. C'est
oui.
Quand même pas très sexy.
Et pendant que les vieilles blanches qui leur torche le cul, te toise en te regardant de travers. Hein. Il faut bien ajouter ça aussi dans l'équation.
Oui, toi là, prends bien soin de mes nègres. Hein,
voilà.
Si, quand il va me bourrer le cul, j'espère qu'il aura le vie propre. Hein, non, mais c'est ça.
Dégorge-les bien les couvillons tous les 3 jours.
Oh, sinon, ouais,
il faudrait pas que ces dames soient
indisposées, tout ouais, à fait. Bon.
J'ai bien aimé là, cette histoire là, de beau-fils là, qui se retrouve...
Oui, foutu à la porte de la tribu, en fait. Hein.
Oui, c'est-à-dire qu'en fait, il y a un problème. Enfin, il y a un problème. Bon, les nègres sont un problème en soi. Mais oui. Le fait qu'ils meurent beaucoup moins qu'avant, notamment les hommes, et qu'on leur a apporté la médecine, ben, ça fait ce genre de truc. C'est-à-dire que tu as des nègres et des négresses. Donc, quand un nègre rencontre une négresse, en quelques années, ça fait 5 ou 6 gosses. Mais après, ils en ont marre. Donc, du coup, ça change, ça tourne. Et effectivement, avant, ça ne tournait pas parce que le nègre crevait. Hein, il ne vivait pas assez longtemps pour faire autre chose, ou etc. Donc, bon, il n'y avait pas assez d'hommes pour le nombre de femmes. Là, non. Là, c'est, tu as des trucs comme ça où tu as... Tu as des nanas qui doivent faire les moins moches, parce que tu as des pays où c'est 5 ou 6 enfants en moyenne. Compte qu'il y en a qui n'en font pas d'enfants, hein, il y en a qui se devaient stériles, ou qui meurent plus tôt. Donc, tu as des nanas qui doivent faire 3-4 gamins avec un type différent. Et chaque fois, donc, le type arrive, c'est. Voilà, bon, ben, le. Comment dire la pollution génétique de celui qui est du type qui était là avant, ça dégage. Et ça, bon, moi j'avais commencé à le voir il y a déjà quelques années, mais apparemment, c'est pas étonnant que ça se passe de plus en plus, étant donné que le nègre prolifère de plus en plus. Donc ça, oui, je note cette évolution-là, c'est-à-dire que les nègres copulent entre eux de manière tout à fait
incontrôlée, hein.
Incontrôlée, tout à fait incontrôlée. Et ça, donc, ça donne ça, c'est-à-dire que ça donne des couples qui se mettent ensemble, qui font deux, trois gosses à chaque fois. Et quand, dès qu'un nouveau mâle arrive pour féconder sa guenon, eh bien, les petits singes qui étaient là doivent décamper parce que le type, contrairement aux gros cons français, n'est pas prêt à nourrir les enfants des autres. Le nègre a quand même ce...
Ça, c'est flippant.
Oui.
J'ai vu dans Ouest France, là, c'est un journal... Donc officiellement démocrate chrétien, enfin
oui.
Bérouiste.
Oui, oui.
Bah, donc voilà. Et alors pour le coup, qui est le journal officiel de ton église, cher Derrick, parce que c'est migrants matin, midi et soir. Alors c'est tous les jours. C'est une ligne directrice. Alors, c'est
avec des boomers qui sourient. Hein,
oui,
c'est des photos. Ils sont mal fringués. Ces gens-là sont mal fringués alors qu'ils sont pleins de fric.
Ouais.
Rendez-vous compte comme c'est terrible de. Enfin moi c'est bon,
La ligne rédactionnelle est soviétisée, hein, c'est-à-dire que tous les jours il y a un quota d'articles sur les migrants. Alors tout est rose, hein, voilà. Et alors je lisais pas plus tard que hier, donc un couple, j'ai presque envie de dire une bande donc dans la région de Rennes, si je ne m'abuse. Donc alors du boomer. Du glandu, tout sourire, hein, avec une négrillonne de 13 ans qu'ils avaient adoptée et qui n'avait pas bénéficié du passeport auquel elle aurait le droit, censément, en raison de sa nationalité française, puisqu'elle aurait été réglée, je ne sais pas comment ça s'est passé. Et donc, il y avait tout. Bon, le Ouest France était en émoi, les grandes photos, blabla. Je lis les commentaires Facebook, que des rombières en train de geindre devant l'État qui est incapable de faire preuve de pitié, de machin. Et en fait, bah, c'est exactement ce qu'on dit. C'est-à-dire que cette négrillonne-là, c'est un échantillon du surplus de la bite des nègres hors de contrôle en Afrique. Et il y a des connards de blancs complètement possédés par cette espèce d'empathie, d'altruisme pathologique, qui ont besoin de ramasser les débris. C'est-à-dire que soit dans les centres de tri, vous avez des connasses qui se font taper dessus et qui disent merci en sortant, c'était enrichissant, soit vous avez des familles de connards, comme celle-là dont on parle dans Ouest France, qui récupèrent encore un cas perdu, là, voilà, et ça à répétition sur tout le territoire en permanence. Et à chaque fois, l'État social prend le relais, donc là, avec l'argent de ceux qui travaillent, des blancs qui bossent, la préfecture, les associations, enfin, il n'y en a que pour eux. Et ils sont canonisés de leur vivant, c'est-à-dire le moindre volontaire a le droit à sa gueule affichée dans les haies, c'est le brave type, machin, etc. Alors qu'en plus, quand tu les connais, personnellement, tu sais que c'est tous des ordures, la plupart du temps, ils sont infects et tout, machin. Ils courent derrière les nègres parce que, comment, les autres leur courent devant, quoi. Bref. Voilà, enfin, c'est tout ce que je voulais dire.
Écoutez une chose. N'oublions pas que notre ami Mamadou, demain, il peut sauter d'une gonzesse à l'autre et faire 50 gosses sur la semaine s'il a envie de le faire. Il ne craint absolument rien. Par contre, Marcel Dupont, il fait un gosse demain, il peut pas franchir une frontière sans avoir Interpol au cul pour payer la pension alimentaire qui ira avec.
Oui, ça c'est vrai. Ça c'est clair. C'est-à-dire que l'homme blanc qui fait un gosse à une blanche, bon, moi je suis pas, je suis pour assumer la paternité, ça c'est pas le problème. Mais enfin, il est très évident que le nègre et le bico ont carte blanche pour planter des gosses à droite et à gauche sans qu'on leur demande quoi que ce soit. C'est bien entendu que c'est les services sociaux financés par ceux qui payent des impôts qui vont payer les conséquences de leurs actes. Alors
de toute façon, ils sont insolvables, hein, de toute manière.
Bah voilà, non, mais voilà, enfin, c'est très clair, quoi. C'est-à-dire, ça, c'est très net. Alors qu'un homme blanc, donc un bon gaulois, je sais pas, en Suisse, en Belgique, je sais pas comment ça marche, mais voilà, alors non, il peut pas se défausser, le mec, il peut pas dire ah ouais, mais excusez-moi, mais c'est, moi j'ai pas d'argent ce mois-ci. Ah bah vous avez pas d'argent, c'est pas grave, monsieur, vous en aurez deux fois plus le mois prochain.
Mais, posons la question au gars qui a gravité dans la sphère d'une certaine Rachida Dati.
Vas-y.
Ils étaient une cinquantaine. Hein.
Ouais, il y en avait pas qu'un.
À gravité dans sa sphère, ils mettent une cinquantaine.
Oui, mais grâce à l'ADN.
Oui, ils l'ont trouvé, le gars.
C'était qui le mec?
Un cadre de l'VMA, je crois.
Ah, ouais, c'est ça. Richissime. Hein.
Ah ouais, voilà, enfin bon, ouais, bah, ouais. Je préfère pas m'étendre.
Eh, mais c'est intéressant, hein, de tout ça, parce que. Bah, là, j'en reviens encore au débat sur la PMA. Parce ouais. que qu'est-ce qui est en train de se passer en France? C'est que le statut de mère célibataire, qui était un statut qui était pas marginal, mais on considérait qu'on était mère célibataire par accident de la vie, hein, soit. Parce qu'on on s'était marié avec un tocard, ou parce qu'on était veuve, mais ça n'a jamais été un projet, je pense, pour les femmes de devenir mère célibataire. C'est un accident de vie, un accident de parcours qui est réservé soit aux malheureuses, soit aux idiotes. Eh bien, le statut de mère célibataire avec la PMA va devenir quelque chose de totalement legit, de totalement normal. Et ce qui va se passer, c'est que on va demander à l'ensemble des contribuables français, c'est-à-dire aux mâles blancs, de financer toute cette négraille, tous ces petits mulâtres, et pour qu'elles puissent faire ce qu'elles veulent avec leur cul, pondre du chiard de façon incontrôlée, ne pas l'assumer. Et moi, je pense qu'en fait, c'est le projet à la base de beaucoup de féministes, c'est d'avoir en fait un pool de mâles totalement corvéables comment dire, pourvoyeurs. Pendant ce temps, elles pourront faire ce qu'elles veulent. Donc en fait, ce ne seront pas des mères isolées, elles seront totalement soutenues, mais par l'ensemble de la société.
Oui, avec ça,
tu vas avoir la dimension raciale qui va s'ajouter. Donc on est totalement à l'opposé du système africain, ou enfin, comme il pouvait exister chez les Romains, où le nouveau mâle qui fécondé la femelle, un peu comme chez les lions, bouffe ou vire la progéniture qui n'est pas la sienne.
Oui, c'est intéressant sur la novlangue, là, le fait de dire mère isolée. Alors en fait, que ce qui est en train de se passer, c'est qu'elles sont plus du tout isolées, elles sont totalement prises en charge, beaucoup plus prises en charge que les couples normaux, en fait. Mais pour bien souligner, parce que c'est très pertinent ce que tu dis, pour bien souligner ce vers quoi ça nous amène, c'est qu'en gros, par l'État socialiste, donc l'État racket, hein, l'État kleptocratique macrono-communiste, là, l'espèce de bouse là, qu'on appelle la République française, bon, tous les mâles blancs, c'est-à-dire ceux qui bossent, donc là, vous mettez tout, artisans, ouvriers, employés, les mecs qui sont productifs, qui payent des impôts.
Ces mecs-là payent.
Eux, ils sont captifs du fisc, ils crachent. Les bougnoules et les nerfs, ils sont improductifs, ils touchent. Les femelles dans l'opération, c'est-à-dire les femmes, et surtout, évidemment, les pétasses et les pétasses à nègres, vont pouvoir se faire sauter dans tous les sens, n'importe comment, produire des tarés, des dégénérés, des mulades, sans aucune restriction, parce que c'est les mâles blancs productifs qui vont payer par leurs impôts les conséquences. Et pendant ce temps-là, ces mêmes mâles blancs-là, qui voudraient fonder des familles saines, en sont pour ainsi dire privés, parce que de toute façon, la priorité est mise sur les tarés, grâce à l'idéologie socialiste et antiraciste dominante. C'est-à-dire qu'on ne cherche pas à produire des générations saines, on cherche à sauver des gens insauvables, c'est-à-dire les nègres, les bougnoules, les ratés de toutes les cas sociaux, et voilà. Donc c'est vraiment la spirale, dysgénique par excellence, bon, qu'on peut pratiquement réduire à la France maintenant. Et ce truc sur la PMA est très important, parce qu'en fait, ça grave dans le marbre le privilège des pétasses à coucher avec des métèques. C'est, en gros, c'est ce que ça veut dire. C'est-à-dire que l'obligation n'incombe qu'aux blancs, aux mâles blancs, quoi. Alors, il y a des gens qui veulent sauver l'État social en France, hein, comme Marine Le Pen, par exemple.
Le blanc, en fait, il a le droit d'être, enfin, le devoir d'être seul, ou de temps en temps, il aura peut-être l'opportunité d'accéder à la divine Cyprine de la femme blanche qui est une princesse arienne, n'est-ce pas? il doit payer pour tout ça, il doit payer pour les nègres, il doit payer pour les boomers, et qui ferme sa gueule et qui crève. Alors bon, moi je tiens à signaler que ce genre de truc, c'est très dangereux. Hein. Il y a quelques mois, il y avait un article qui est passé, je crois que c'était sur West France, hein, qui relatait les mésaventures, des mariages assez suspects qui avaient pu y avoir du côté de la base de Lille Longue. Donc Lille Longue, c'est la base des sous-marins.
Ah oui, avec les Chinoises, oui.
Avec les Chinoises. Donc tu as des bonhommes qui sont sous-mariniers, donc qui ont accès à des qui sont dans des vaisseaux qui sont, ma foi, avec des technologies avancées, etc. Bon, il y a des secrets là-dedans. Hein. Il y a de la technologie qui est quelque chose qui ne doit pas sortir. Et on s'est aperçu que ces gens-là, et même pas que les sous-mariniers, il y avait les industries à côté. Donc toutes les industries qui sont en rapport avec
la défense, quoi. Avec, voilà.
Ouais. Ouais, avec la défense, mais particulièrement les sous-marins nucléaires. Il y avait des mariages très suspects avec des étudiantes chinoises qui sont tombées de nulle part, voilà, pour se marier, donc avec des sous-mariniers, des ingénieurs,
virus.
Voilà, eux, des ingénieurs dans l'armement. Ma foi, oui. Nos auditeurs, ils sont au courant de ça, mais que les gens qui sont là à faire la promotion des putains, etc., oui, dans tous les sens, hein, en disant oui, les hommes n'ont qu'à faire ci, qu'à faire ah, oui, très, enfin, moi ça me gêne pas, il n'y a pas de problème, à titre perso, hein, mais gardez bien en tête que c'est un jeu très dangereux, parce qu'un État étranger. Bon, là, c'est les Chinois, c'est des mangeurs de chiens, etc. Bon, je pense que les Juifs, hein, n'ont pas attendu de faire la même chose. Ils l'ont déjà fait bien avant. Mais un lâcher de salope là-dessus, eh ben, tes secrets industriels, comment dire, tes avancées technologiques, tes avantages compétitifs dans l'armement, ben, c'est mort. Tu te fais niquer la gueule.
Oui, tu veux dire qu'en fait, un État étranger suffisamment intelligent et vicieux comme la Chine peut exploiter à outrance la misère sexuelle ambiante qui prévaut en France pour te piquer tes secrets défense. Et...
Oui. Je dis que...
Ce qui, non, mais quand il réfléchit, c'est
promouvoir, effrayant. Hein, promouvoir un système comme ça où tu as des gens qui sont, des gens productifs, hein, faut quand même... Ouais. C'est les gens qui bossent et qui payent, au final. Que promouvoir un système où ces gens qui travaillent, qui payent et qui font tourner le bazar sont vulnérables du côté de ce côté-là, ça craint non seulement parce que bon, c'est pas moralement, mais le truc est voué à se faire dévorer par tout le monde. C'est obligatoire.
Ouais. Très très important rappel, très bien vu, Derek.
Mais oui.
Qui d'autre
On a eu un événement qui était extrêmement connu pendant la guerre où l'OTAN est intervenu joyeusement en Serbie. Tous les donneurs kebab qui entouraient les casernes se retrouvaient avec des bosniaques au service. Donc t'avais le gars qui sortait de sa caserne, qui en avait marre de bouffer l'ordinaire, qui venait se préparer son petit kebab. Le truc, c'était « Ah tiens, t'es dans quelle unité t'as des copains qui sont sur le terrain Ah oui, où ça exactement ?»
Ça, dans quel type de caserne? En France, tu veux dire?
Dans toutes les casernes où tu as eu des... Comment dire? En France, en Belgique, tous les pays qui sont intervenus au nom de l'OTAN sur le terrain, en fait, ils se sont vus phagocyter avec des gars qui étaient là, qui posaient des questions... C'est vite fait, hein. Tes potes, ils sont où? Ils sont dans quelle région? Comment ça se passe là-bas? Donc automatiquement, le gars, bah, pour avoir son kebab, il cause.
Ouais, bien sûr.
Marrant ça, parce que c'était pas justement pendant l'opération en Serbie où il y a eu un problème avec la cuisine halal du Clémenceau. du porte-avions.
Ah, ça, je me rappelle pas.
Tu sais, je crois que c'était en 99, hein. Il y a une. Les cuistots ont fait grève parce que. Ils refusaient que le porte-avions bombarde leurs frères musulmans.
Oui, ça, j'avais entendu ça, mais je me rappelle plus dans quel contexte c'était, mais d'accord. Bah, non, mais franchement, on peut étendre le principe. Imaginez bien que si vous avez des mecs blancs qui bossent, etc., mais à la maison, enfin, en France, il y a que des pétasses ingrates. Imaginez ce que des États étrangers vicieux peuvent faire avec ça. Bon, le cas de la Chine, mais pas que la Chine. Hein. Là, comme disait Derek, c'est vraiment la porte ouverte. Vous pouvez être sûr que il y a des Tatiana qui vont arriver. Enfin, je veux dire, ça va arriver de partout. Hein. Ça va être très facile, en fait. Hein.
Mais oui, si je peux me permettre, Gandalf, il y a eu mieux que les Tatiana. Quand tu as eu les événements de la guerre de Bosnie, le problème pour les Bosniaques, c'était générer du fric pour pouvoir acheter de l'armement le plus rapidement possible. Le résultat, ça a fait l'objet du parquet antiterroriste belge. Tu as eu à Bruxelles, dans la très célèbre rue Larscott, une invasion massive de putes albanaises et bosniaques.
Ouais.
Bon, ce genre de nana... Grosso modo, hein, d'après les informations qui sont fournies et par le ministère des Finances et par d'autres services, ça se faisait à l'époque quelque chose comme 10 000 euros par mois. Le pognon, il rentrait directement là-bas.
Ouais, bien sûr. Bien sûr. Alors messieurs, je vous propose de faire une pause musicale et de nous retrouver pour la deuxième partie de notre émission. Pause musicale et à tout de suite. Nous revoici pour cette deuxième partie de Démocratie Participative, saison numéro 5, épisode numéro 4. Rubrique numéro 3, la sale métèque de la semaine. Petite pause là, un petit peu là, vous savez la France reste... Je me demande de plus en plus pourquoi d'ailleurs, mais une des destinations les plus prisées des touristes. Je crois qu'il y a quelque chose comme 70 et quelques millions de touristes qui viennent en France chaque année et qui découvrent, la première chose qu'ils découvrent en arrivant en France, c'est bien évidemment pas la Tour Eiffel, c'est Roissy Charles de Gaulle, bien sûr. Alors, à commencer par la douane française. Alors, je vous propose de découvrir la douane française en direct. Ce n'est pas truqué, hein, ça nous vient directement de Twitter, la vidéo est parlante. L'uniforme de la douane est là, c'est Roissy-Charles de Gaulle, aéroport de Paris, il n'y a pas d'erreur. Hein. Je vous propose d'apprécier le toucher féminin des Françaises de 2020, et on se retrouve.
Poto, elle est plâtrée sa grand-mère, son mec, son bolos, ça, il est plâtrée sa grand-mère, elles sont là en train de s'inventer des stories pour faire du buzz. Mais le buzz, tu l'as déjà, Narvali, même si tu sais pas t'habiller. Vas-y, chacal, ça, on te pardonne, si tu veux, ajoute Chiquita 937, je vais te montrer un peu c'est quoi, un peu la mode, la famille. Mais le délire, c'est quoi?
Alors, messieurs, dommage, y a pas le visuel pour nos auditeurs, mais enfin, il y a quand même le son. Donc, nous sommes à la douane, hein, en France, hein. On est à Roissy, Charles de Gaulle, voilà, imaginez un touriste russe, un peu friqué, qui vient avec 2-3 images en tête. Bon, je pense quand même que depuis, la rumeur a dû atteindre la Russie quand même, que des choses se passaient en France, hein, je pense, hein, bon, imaginez un millionnaire américain, enfin bon, imaginez les businessmen.
Les japonais.
Ouais, voilà, et les mecs, bon, et les types arrivent et ils tombent là-dessus, tu vois, et alors... Première question, le phénotype. Je ne suis pas vraiment foutu de dire à quoi on a affaire. Du Libano-antillais, très certainement, hein, mais ça peut être du Guyanais délavé, ça peut être du Mauritanien mélangé avec du Marocain.
Mais le Marocain lui-même assez mélangé. Donc
ouais, voilà. Mais il y a du nègre, il y a du nègre dedans, là, hein, quelque part. Hein,
oui, dans le Marocain, il y a du nègre.
Ouais, c'est ça. Hein, oui, donc, non, mais je sais pas.
Ça sent effectivement le Maroc civilisé.
La partie civilisée du Maroc, c'est ça que tu veux dire?
Oui. Oui,
d'accord.
Ça existe?
Bah oui, tu l'as devant les yeux.
Ah, ouais, le degré, enfin, l'indicateur, cher Pierrot, de la civilisation, c'est le nègre. Hein, donc c'est le Maroc civilisé.
Mais est-ce que c'est ce genre de bestiole douanière qui est en charge de la sécurité par rapport, par exemple, au coronavirus, vous savez? Ça
oui,
expliquerait pourquoi il y a des cas en France, je pense.
C'est ce qui se pourrait expliquer aussi pourquoi il y a des islamistes en circulation. Hein. Je veux dire, il y a toute une série de choses qui peuvent s'expliquer par ce biais-là. Hein. Toute une série de trucs. Qui d'autre veut me parler de...
Mais c'est un homme, ça.
Ça ressemble à un mec. Hein.
C'est, ouais, c'est louche.
Mais sincèrement, imaginez 2 secondes... un étranger qui arrive devant ça,
Oui.
Qui se dit c'est ça la France.
C'est la première impression. C'est la première impression. T'arrives en France, première fois que t'arrives, enfin, aéroport, Paris, tu viens, je sais pas de quel pays, de Russie, voilà. T'es une jeune fille russe, t'as envie de découvrir le Paris romantique, que sais-je. Voilà, tu sors de l'avion, tu tombes là-dessus. À mon avis, tu relis tes billets, hein, tu dis.
Ouais, tu dis ça va jeter où là.
C'est Rio de Janeiro ici ou...
Il y a une escale ou quoi?
Alors même, je pense que...
Aux États-Unis, ouais. Je suis tombé là-dessus, mais la version avec 2 quintales en plus. Hein.
J'ai eu la même chose.
Alors moi, j'ai eu le même chose.
Ah ouais, non, moi c'était la même chose, on m'a obligé à jeter merveilleux alcool que je très mal. C'est terrible. Sale négresse.
Enfin voilà, bon voilà, je pense que nos auditeurs ont pu goûter.
Mais attends, mais comment elle a pu avoir le concours de la douane? Enfin, elle m'a l'air d'avoir un QI à 45.
Oui, c'est.
Oui,
ça colle assez dans la question.
Ça doit être le niveau.
Il faut quand même voir que. C'est l'administration déjà, donc voilà, il y a obligatoirement la diversité qui vient en compte. Hein, en ce moment, on a de nombreux témoignages d'auditeurs qui bossent dans des boîtes diverses et variées, soit informatique, etc. où tu as obligation de foutre des nègres absolument partout. Enfin, des nègres ou des gens marrons.
Des Algériens, ouais, des marrons, ouais.
Oui, ou des Indiens, hein, des Indiens.
Oui, ça ventile la mort, hein, ça ventile la mort.
Ben, ça ventile la mort, puisque ces gens-là sont débiles, mais on les met quand même. C'est un système assez hybride, les systèmes français. C'est-à-dire que tu as l'État qui est censé être une démocratie, bon, un truc où les gens votent, quoi. Un communisme mou. Mais le secteur privé est aussi un communisme mou. Bon, y a quand même plus de dureté, hein, au niveau de l'administration, il faut l'avouer. Hein, c'est peut-être pas pour tout le temps, mais parce que je vois des trucs au niveau du privé, vraiment délirant. Hein, ça ressemble vraiment à... On s'est dit, bon, ben oui, on va se saboter pour continuer encore un petit peu plus, pour que la farce puisse continuer encore quelques mois de plus. Et les entreprises privées sont dans cette optique-là. C'était délirant.
Ouais, on fait du quota pour être bien vu des autorités en espérant gratter de la subvention, oui, du truc.
Non, c'est même pas que
non.
Du quota.
Non, c'est idéologique, tout simplement.
Ouais, c'est idéologique, et tu as des entreprises, enfin, les grosses boîtes imposent
aux sous-traitants.
Oui, elles viennent voir. Mes chers amis, non mais, oui, non mais très bien, oui, vous avez des compétences pour réaliser telle une fusion, quelque chose comme ça. Mais où sont vos nègres? Où sont-ils? Et là, ça ne va pas. Si tu n'as pas tes nègres, tu peux pas. Hein, tu perds des marchés parce que tu n'as pas tes nègres. C'est marqué nulle part dans une loi, mais ça arrive de plus en plus, hein, de plus en plus.
Bah oui, mais non, pas vraiment. Enfin, non, parce que la thématique, c'est comment se fait-il qu'on ait des créatures de ce calibre à des postes, bon, pas à responsabilité, mais enfin quand même les douanes, donc qui sont censés. Disons que ce qui choque, c'est d'avoir des trucs comme ça qui te supervisent.
Eh bien, comment voilà. Ça se fait? Eh bien, il faut. Non, mais c'est. Oui, c'est simple. Il faut occuper ces races de boue pour qu'ils ne. Bon, parce qu'il y a beaucoup de dealers, mais bon, s'ils étaient tous dealers, ça serait un petit peu problématique. Donc, il faut qu'on les mette à des postes. Alors, là, ça va être douanier, hein, ça va être relations humaines, ça va être, je sais pas, un poste à la con en informatique sur une mission, en ingénierie. Hein, un ingénieur qu'on va le mettre sur un truc qui. On va le mettre à tourner en rond, on va le mettre dans une cage de hamster, il va tourner dedans. C'est très bien, il va être content. Ça ne sert à rien, mais on va le payer pour la paix sociale.
Il est quand même temps de mettre quelques nègres quand même dans les centrales nucléaires. Je veux dire, la France est mûre pour ça. Oui. La France est mûre.
Moi, je mettrais bien aussi des nègres dans les synagogues. C'est un projet que j'ai.
Ah, je mettrais bien des Algériens, moi, dans les synagogues. Moi, ça...
Alors, je suis obligé de quand même de préciser pour nos auditeurs.
Des Koulibaly, vous... c'est très bien. Des Koulibaly dans les. Voilà.
Oui.
Moi, je proposerais qu'on en mette à la rotonde de la Chambre de commerce de Paris dans le cadre d'un énorme projet destiné à attirer les investisseurs étrangers en France.
Voilà, Macron, il est extatique. Je regardais là sur le. À la communication présidentielle, là, il dit, c'est investi en France, il est confiant.
Leader Price, c'est Leader Price, hein, le Twitter de l'Élysée. Hein.
Ouais, alors voilà, c'est Coca-Cola, alors du coup, mon cher Diabolix, ton projet est peut-être réalisable, parce que d'après Macron, les capitaux
Coca-Cola, arrivent, hein. Ils sont partout. Hein.
Oui, mais bah, apparemment, Macron n'était pas au courant, donc... Donc il s'en vante, il s'en flatte, voilà, bon. C'est...
J'ai vu l'article, c'est hallucinant. Ça pue le marketing à deux balles, c'est vraiment c'est consternant. Quoi.
Ça fait pas très présidentiel. T'imagines Poutine, tu sais, le compte officiel de la présidence de Russie, de la Fédération de Russie. Oui, on a décroché un contrat avec Facebook, c'est ça. Enfin, putain. C'est vraiment le supermarché, quoi.
Oui, mais ce qui m'inquiète, c'est pas tellement Macron. Ce qui m'inquiète, c'est que l'équipe qui est derrière. Est capable de produire une merde pareille. C'est là que c'est phénoménal.
Bah, l'équipe qui est derrière, c'est Jacques Attali et sa clique. Hein. Donc, bon, On sait à peu près où on se situe. Hein. Enfin voilà, chers amis, je vous propose, avant de passer au sujet principal de cette deuxième partie d'émission, brièvement aussi là, sur une polémique, enfin un incident suivi d'une polémique qui a beaucoup animé les discussions ces derniers jours. C'est le clash entre une jeune lycéenne de 16 ans, lesbienne revendiquée, qui s'appelle Mila, je ne connais pas son nom de famille, et qui, lors d'une discussion animée avec des petits camarades d'école, hein, dont beaucoup de bougnoules quand même, hein, a fait savoir tout le bien qu'elle pense de la religion musulmane, du Coran et d'Allah, puisqu'il y avait un arabe, hein, on l'apprendra après, mais il y avait un arabe qui essayait de la chauffer en disant ouais, vas-y, tu me plottes bien. Voilà. Et donc, elle a expliqué que, bon, bah, finalement, hein, on va dire, le background culturel de Toufik n'était pas tout à fait à son goût, à deux titres. D'abord, parce qu'elle n'aime pas trop l'islam, et ensuite, parce qu'elle est lesbienne. Donc, de toute façon, c'était pas possible. Hein. Alors, on l'écoute et on se retrouve.
Liberté d'expression, tu connais. Je ne suis pas gênée pour dire ce que j'en pensais. Je déteste la religion. Le Coran est une religion de haine. Il n'y a que de la haine là-dedans. L'islam, c'est de la merde. C'est ce que j'en pense, moi. Je dis ce que je pense, putain. Je ne suis pas raciste, mais pas du tout. Tu peux pas... On ne peut pas être raciste, une religion. Tout simplement, il y a des gens qui peuvent penser ça, mais vous êtes cons. Qu'est-ce que vous êtes cons, putain de merde. Voilà, on ne peut pas être raciste envers une religion. Moi, j'ai dit ce que j'en pensais. J'ai totalement le droit. Je ne regrette pas du tout. Vous n'allez pas me le faire regretter. Là, il y a encore des gens qui vont s'exciter. J'en ai clairement rien à foutre. Je dis ce que je veux. Je dis ce que je pense. Votre religion, c'est de la merde. Votre Dieu, je lui mets un doigt dans le trou du cul. Merci, au revoir. Vous m'insultez et vous me menacez de mort. Vous êtes bon qu'à ça. Vous n'avez pas d'éducation. Vous êtes nul. Vous servez à rien, putain.
Alors, mes amis. Donc finalement, en vis-à-vis deux faces de la société française de 2020, quoi. Bon, d'un côté, en fait, les apprentis salafistes de banlieue, hein, qui, bon, comme ça fait un peu écho au premier courrier de notre auditeur de Damien, hein. Vas-y, t'es mignonne, on sort ensemble, etc. La fille dit non, ouais, sale pute. Bon. Voilà, donc ce type de salafiste-là. Et puis des lesbiennes complètement destroy, complètement reprogrammées, donc par la société.
Dès le plus jeune âge, hein.
Oui, par la société juive, il faut bien le dire, qui ont été sémitisées par le marxisme culturel qui prévaut dans les séries sur Internet, promues depuis d'outre-Atlantique, n'est-ce pas? Donc voilà, donc ça c'est un peu deux faces qui se font vis-à-vis. Qu'est-ce que vous voulez me dire du clash en lui-même, en sachant que donc elle a dit qu'elle aimait pas l'islam, elle n'a pas pu retourner à son lycée, elle est retournée le lendemain à son lycée après avoir reçu un flot de menaces, mais sous bonne garde de gendarmes. Et puis ensuite, on l'a déscolarisée, c'est-à-dire, ils l'ont virée parce que quand même, bon, elle avait blasphémé contre la sainte religion. Donc voilà, donc c'est terminé et elle est complètement tricard, en tout cas sur les réseaux sociaux. Et voilà. Alors,
ouais, elle n'est pas que tricard sur les réseaux sociaux pour le coup, donc elle est tricard.
Oui, elle est menacée de mort.
On la trouve déscolarisée. Quoi.
Oui, elle est menacée de mort. Voilà. Alors, je connais pas exactement la commune où ça se produit. Je crois que c'est la région de Lyon, non? Je crois. Bon, bref, on me corrigera si...
Vienne, je crois.
Oui, Vienne, c'est ça, Vienne, tout à fait, c'est juste. Alors, messieurs, qu'est-ce que vous voulez m'en dire?
Je me demande, en fait, sous quel motif officiel elle a été virée de son lycée. Parce que, bon, le droit... Moi, je suis pas pour la laïcité, hein, mais le droit au blasphème existe, en tout cas, dans la loi. Donc, en fait, je pense qu'ils lui ont collé un truc un peu vicieux de incitation à la haine raciale, ce qui ne colle pas, parce que, du coup, la nana, apparemment, bon, je pense qu'elle n'est pas... Elle est juste pas raciste. En fait, elle veut pouvoir être une sale lesbienne sans avoir un barbu derrière qui la menace de mort, en gros. Voilà. Mmh. Et donc, pour moi, je suis assez enchanté de voir ces deux mondes s'affronter. Et j'espère qu'il y aura plus de luttes intersectionnelles entre ces deux mondes.
Oui, c'est les contradictions internes du multiculturalisme, en fait, auxquelles on assiste.
Voilà.
Ouais, Derek ?
Oui, non, bah c'est comment dire, on avait vu plusieurs fois des manifestations de fiottes. Les PD contre, enfin les LGBT pardon, contre l'islamophobie, etc. Un petit peu partout dans les,
ouais.
En Angleterre, en France, aux États-Unis, tu sais, ils arrivaient avec leur plume dans le cul et leur bannière à la con. Bon, c'est marrant. Bon, là, tu as une nana qui rejette de manière tout à fait complète le fait d'entrer dans le enfin, dans le système normal où elle va. Se mettre avec un homme normal blanc. Hein,
oui, tu veux dire qu'elle rejette le patriarcat et
oui, arrête le patriarcat. Forme, c'est marqué sur sa gueule. Enfin, excusez-moi, en fait, c'est marqué sur sa tête, hein, de par son.
Ce qu'il en reste.
Sa coupe de cheveux, son maquillage absolument délirant, et sa couleur. Hein, les teintes fluo sur la gueule des nanas, les cheveux des nanas. C'est un marqueur pour faire fuir les hommes. Hein. C'est un marqueur par lequel les lesbiennes se reconnaissent.
Alors, c'est tout à fait vrai, Eric. Sache que ça existe dans le monde animal. Par exemple, il y a des coccinelles qui sont très colorées, notamment celles qui ont les 7 points noirs. Leur couleur indique leur toxicité aux prédateurs.
Ah oui, comme les grenouilles aussi, d'ailleurs.
Oui, les grenouilles, les plantes, tout à fait.
Donc là, les nanas avec des cheveux fluo, c'est toxique pour... clairement.
C'est pas consommable. Bon. C'est pas consommable.
Donc, il faut les envoyer en Chine.
Oui, d'une pierre deux coups. Mais,
Je sens ta fibre écologiste, cher Diabolix. C'est bien. Non, voilà. Donc, ceci étant quand même posé, le fait que bon, cette nana-là a décidé quelque part de sortir de l'humanité... il n'en demeure pas moins que l'attitude du lycée du proviseur là, qui la vire est exécrable. C'est-à-dire qu'il n'y a pas,
tout à fait.
Il n'y a pas lieu de virer n'importe qui parce qu'il a dit que l'islam c'était de la merde et puis quelque part, j'ai envie de te dire. Puisque les homosexuels sont la normalité et puisqu'il est anormal de s'opposer à eux, quand elle dit qu'elle veut mettre un doigt dans le cul d'Allah, eh bien, elle ne lui veut que du bien. Et si les gens ne sont pas d'accord avec ça, eh bien, ils ont un problème.
Hein, donc, alors là, je m'élève en faux, Derrick.
Oui.
Je m'élève en faux parce qu'elle a mal interprété la chose. Un doigt dans le cul d'Allah sans aucun problème, mais avec un préservatif. Hein.
Ah, peut-être, effectivement.
Alors, comme Allah est incréé, je pense qu'il n'a pas de trou du cul, en fait. Hein.
Ouais, ou alors, il n'est que ça, peut-être.
Alors, ce qui est bien, par contre, donc on a parlé hein, du espèce de... C'est, finalement, ça traduit bien le nihilisme de cette société qui se retrouve dans l'anomie, sans aucun ordre, sans aucune verticalité, sans aucune hiérarchie des valeurs, ou donc le principe du multiculturalisme, hein, où tout est censé pouvoir se juxtaposer dans la tolérance. Évidemment, c'était voué à foirer, hein, c'était un projet d'apprenti sorcier juif. Et oui, ça aboutit à ce que ça devait aboutir logiquement, c'est-à-dire la balkanisation. Sauf qu'à ce jeu-là, il va sentir qu'entre des meutes de bédouins enragés, qui déjà passent le plus clair de leur temps à s'entretuer pour des conneries, quand une blanche lesbienne de surcroît crache mineure qui crache sur ce qui leur sert de religion. Il faut pas s'attendre. Enfin, le match va vite être plié. Hein, ça c'est clair. Et d'ailleurs, l'arbitre, qui est le proviseur, il a mis tout le monde d'accord. Hein,
il a eu peur. Il a eu peur. Il a chié dans son froc.
Ah, et oui.
Et tu vois, on parle d'islamophobie, mais c'est exactement ce qui est en train de se passer. C'est une réaction islamophobe. Il a eu peur parce que. D'une part, il savait pas s'il allait pouvoir garantir la sécurité de la gamine, mais en plus de ça, son lycée pouvait exploser. Hein. Enfin, exploser, pas une bombe, pas forcément une bombe, mais les bougnoules auraient demandé des revendications phénoménales pour faire passer la pilule, quoi. Je pense qu'ils auraient demandé, tu vois, des petits accommodements dans le lycée.
Oh bah je pense qu'ils auraient demandé une lapidation dans la cour, hein. Je pense que...
Mais, bon, il y a le proviseur, c'est une chose, c'est un lâche, soit, parce qu'il est menacé de mort directement...
Oui c'est ça, c'est-à-dire qu'il pourrait sombrer lui-même
dans le blasphème. Il pourrait se faire dévorer par des nègres énervés, tu vois, des Algériens qui dont les machettes se seraient échappées par mégarde ou des
canifs, bon...
Hein. Ces gens-là ont un problème avec les couteaux. Non mais, excusez-moi, mais... Il n'y a pas que ça, c'est-à-dire que la nana a été poursuivie par le parquet, si tu veux, pour incitation à la haine raciale.
Mais si je peux me permettre.
Attends, non, mais simplement sur ce qu'il dit d'Eric, là, sur l'histoire du parquet, c'est-à-dire que le parquet, elle a déposé plainte, donc le parquet a dû instruire la plainte pour menace de mort. Voilà, bon. Mais le parquet.
Et ils ont reconventionné.
Non, mais le parquet s'est senti lui-même sous pression. Parce qu'il s'est dit que si il ne faisait pas un partout la balle au centre en ouvrant une procédure contre la nana pour incitation à haine raciale, alors qu'elle n'a parlé que de religion et au terme, comme l'a très bien dit Pierrot, au terme de la législation française, on peut critiquer une religion, même dans des termes polémiques, c'est légal tant qu'on ne parle pas de race ou des musulmans, par exemple, de faire du généralisation en parlant de l'islam explicitement. C'est légal, mais ils se sont sentis obligés de le faire de peur de déclencher des troubles interethniques et religieux. Et c'est vraiment ça le fond de la plainte. C'est pas tellement que le parquet a voulu persécuter la nana, j'écarte pas totalement cette option, mais c'est surtout qu'ils ont eu la trouille d'envoyer le message dans cet établissement scolaire et plus largement dans la zone ethnique concernée. Que l'État est contre eux. Donc ils ont dit.
Je crois pas. Je crois pas. Je crois que ça va beaucoup plus loin que ça, Gandalf. C'est-à-dire que, bon, le préfet a été en dessous de tout, on est d'accord. Le parquet a été en dessous de tout, on est d'accord. Mais je crois pas qu'ils ont eu la trouille. Je crois qu'on en est au point, en ce moment, aujourd'hui, où ils ne peuvent même plus mener une politique réelle. En disant, un, cette jeune fille, peu importe sa sexualité, a raison. Deux, le premier qui moufte, nous l'éjectons du lycée. Ils n'ont plus ce moyen-là. Ouais. Ils savent très bien qu'ils sont complètement cernés.
Non seulement ils sont cernés parce que pour ça, mais ils sont obligés de dire qu'ils vont faire des représailles pour calmer la meute.
Ouais, c'est ça. Sinon, rassurez-vous, on va la chercher à votre place. Restez calme.
On va la chercher à votre place, donc calmez-vous. C'est ça. Hein.
Ouais, ils n'ont plus le choix.
Ouais. Ils n'ont plus le choix. Exactement, ils n'ont plus le choix. C'est la soumission, quoi.
C'est tout à fait révélateur de l'état de la France, mais pas que de la France, de l'état de tous les pays ouest européens à l'heure actuelle.
Tout à fait.
Oui. Et d'ailleurs, il y a bon, tout à l'heure, on parlait de l'imposture des mots. Et le terme islamophobe devient de plus en plus une imposture, pas dans le sens où le raconte une Caroline Forest, par exemple. Qui, effectivement, la notion d'islamophobie serait le cheval du Troie du lit de blasphème. Mais tout ce qu'on voit, ce sont typiquement des réactions d'islamophobie. Typiquement.
C'est-à-dire, qu'est-ce que tu veux dire?
Que ces gens ont peur de l'islam. C'est pas quand t'as peur de l'islam.
Ah, oui, d'accord, tu veux dire c'est de l'islamophobie au sens.
Bien sûr.
Au sens propre du terme. Exactement. Là, ils ont peur de l'islam. D'accord, ouais.
C'est exactement ça. Enfin, pour moi, c'est très important les mots parce qu'on inverse leur définition trop souvent. Là, ce qu'on voit, c'est de la réaction de l'islamophobie parce que qu'est-ce qu'a montré l'État et qu'a montré le lycée et même beaucoup de gens qui disent oui, c'est inadmissible ce qu'elle dit, c'est que ces gens ont peur de l'islam. Quand on a peur de quelque chose, on ne s'en moque pas, c'est pas vrai.
Tout à fait.
Quand on a peur de quelque chose, on ferme sa gueule et on baisse la tête. Quand on a peur de quelqu'un, on s'efface, on rase les murs. Donc c'est de l'islamophobie.
Mais en plus. Ah, tu as fini, Magda?
Oui, tout à fait.
Ok. En plus, il y a, désolé si je fais erreur, mais j'ai vu il y a peu, je ne sais plus si c'est en Belgique ou en France, mais il y a eu une proposition de loi pour sanctionner l'islamophobie. Vous vous souvenez de ça?
Dans quel pays?
C'est en Belgique ou en France? À mon avis, c'est en France.
Je ne m'en souviens pas de ça. En tant que tel. Hein.
Parce que je me suis fait la remarque. Tonnerre, ils veulent jouer le même jeu que l'antisémitisme. Et donc, il s'agirait de rendre l'islamophobie condamnable au même titre que l'antisémitisme. Et c'est l'idée qui m'a frappé quand j'ai vu ça, quelque part, certainement sur Twitter.
Ça pourrait... Parce qu'en fait, les Juifs, avec leur perfidie, ils jouent sur une histoire de race, et du coup, c'est pas uniquement ça. La cause d'antisémitisme, c'est pas uniquement racial. Alors que pour l'histoire de religion, c'est différent. Il y a quand même Houellebecq qui a dit que la religion la plus con, c'était quand même l'islam ou un truc comme ça. Et je crois pas qu'il ait été condamné, quoi. Donc, pour les religions, normalement, ça devrait pas marcher. Voilà. Mais bon,
ouais, mais ça,
la République française s'adapte.
C'est bidon, en fait. Pourquoi ? Parce que ça, c'est considéré que l'arbitrage aura lieu de manière neutre et non politique. Or, enfin, celui qui a eu affaire aux tribunaux qui suit les décisions de justice, que ce soit cour d'appel, cour de cassation, conseil d'État, conseil constitutionnel, tout ça, sait que c'est politique. Donc en fait, les tribunaux, contrairement à une idée reçue, ne disent pas le droit, mais traduisent dans leurs décisions le rapport de force dans la société. C'est pour ça que pendant un temps, l'homosexualité était condamnée. Aujourd'hui, c'est la moindre critique de l'homosexualité qui est condamnée par les tribunaux. Hein. C'est le rapport de force a complètement changé. Et c'est ce qui va se passer avec l'islam. C'est-à-dire qu'avec l'islam, au bout d'un moment, si vous voulez, comme on voit, regardez l'attitude du parquet. Le parquet s'est senti contraint d'ouvrir une enquête. Vous voyez que la pression s'exerce. Et ça va aller de plus en plus vite, ça va être de plus en plus généralisé, et ça va aller très loin. Hein. Il faut bien comprendre ça. C'est-à-dire que la logique de ce truc-là, c'est que si jamais un Gaulois bouffe un sandwich au jambon pendant le ramadan dans un quartier musulman, ça sera de l'incitation à la haine et au racisme. Et vous serez poursuivi pour ça. Parce qu'on vous dira, mais monsieur, vous êtes dans un quartier qui est objectivement peuplé de musulmans, vous ne pouvez pas ne pas l'avoir compris, vous voyez qu'il y a des magasins, vous voyez que les gens pratiquent leur religion, vous arrivez avec un jambon beurre, vous êtes là pour les provoquer. Vous êtes là pour les provoquer. Voilà. Et ça sera comme ça.
Les autorités crèvent de trouille de voir un soulèvement type pakistanais.
C'est ça, tout à fait. Ouais.
Elles crèvent de trouille. Elles ne veulent absolument pas la guerre civile comme le pensent certains. Ce qu'elles veulent, c'est la paix.
La paix.
Et la soumission.
Bah, ça va avec.
Et du coup, on va condamner toute forme de dans l'avenir, toute forme de provocation.
Bah oui, ou ce qui sera appelé comme ça, mais de toute façon, tout sera ensuite, enfin, la moindre divergence sera cataloguée comme une provocation, et celui qui n'est pas d'accord, machin, sera considéré comme un empêcheur de tourner en rond.
Et non, mais là où c'est marrant quand même dans ces histoires-là, c'est que les PD, selon le canon islamique, le droit canon, hein, la charia,
oui,
sont censés se faire
c'est
se faire
peine
tuer,
de mort. Un peine de mort.
Voilà. Ouais. Et en fait, dans le monde merveilleux de la gauche, les PD et les musulmans sont censés
Lutter contre les blancs, contre le patriarcat.
Lutter contre
blanc.
Les blancs en front commun. Alors oui, ça marche dans une certaine mesure parce que comme les PD veulent crever de toute manière, donc bon, ça les gêne pas trop. On peut avoir ce cas-là, comme la petite Mila, qui vient, ma foi, remettre un petit peu de logique dans tout ce truc.
Alors,
oui, ça révèle bien des choses, et on a quand même progressé, hein, parce que les bounoules sont quand même particulièrement revendicatifs. Je ne sais pas si nos auditeurs ont entendu le fameux Abdallah Zekri. Sud Radio.
Qui c'était le... Qu'on rappelait sa qualité à ce monsieur ancien vice-président du
CFCM, c'est ça,
CFCM. Hein. Donc le Conseil français du culte musulman, créé par Nicolas Sarkozy. Quand même rappeler...
Droite dure.
Droite dure.
C'est ça.
Très très dur, hein. Karcher.
La droite dure, islamophobe.
C'est ça. C'est ça. Et qu'est-ce qu'il nous disait, monsieur Zekri, à propos de...
Il était très clairement en mode menace. En mode, voilà, nous avons une communauté. Cette communauté peut a une capacité de nuisance très très forte. Donc, si vous ne voulez pas que ça se produise, fermez votre gueule. C'était très clairement le message du monsieur, avec un accent dégorgeur algérien. Enfin, moi, j'entendais le bruit des couteaux, le bruit du fusil sur le couteau. Hein.
Moi, je dis cette fille, elle sait ce qu'elle a dit, elle a pris ses responsabilités. Quelle critique de religion, je suis d'accord, mais d'une vulgarité pareille, d'insulter et tout ce qui s'ensuit. Eh bien, écoutez, maintenant, elle assume les conséquences de ce qu'elle a dit.
Très clairement. Et c'était vraiment un, comme tu le disais, en fait, on est dans un pur rapport de force. Il faut être aveugle pour ne pas le voir. Mmh. Et d'ailleurs, tu as souvent dit ici, peut-être pas dans l'émission, mais que c'est très curieux parce qu'en fait, plus il y a d'attentats islamistes, et très curieusement, plus la société s'islamise. Bah, on y est.
Alors oui, c'était, je l'avais dit parce que je citais en fait le courrier de, enfin une correspondance avec un Kabyle établi en Algérie, donc qui vit en Algérie et qui souffre sous l'islam. Vous voyez, parce qu'il y en a, il y a des gens qui souffrent sous l'islam aussi en Algérie, vous voyez, et qui m'a fait de très, je crois que j'avais lu même à l'antenne, qui décrivait ce que c'était le Ramadan typique. À Oran, à Alger, voilà, c'est comment ça se passe. Et c'est l'enfer. C'est l'enfer. C'est l'enfer. Parce que les mecs bouffent pas, il fait chaud, ils boivent pas, ils vont à la mosquée, t'as des tarés qui gueulent dans les micros. Voilà. Tu fais ça pendant un mois, les mecs sortent de là, ils ont, déjà qu'ils sont pas frais au départ, parce que quand même 13 siècles de consanguinité... après un mois de ce régime-là, si tu veux, les types sont prêts à...
Ah oui, non, mais la nuit, ils deviennent fous, en plus. Hein.
Ils bouffent comme des cochons.
Ils bouffent comme des cochons, parce que c'est un jeûne particulier, c'est un jeûne où tu t'empiffres, le ramadan. Voilà. tu bouffes du loukoum jusqu'à se crever, quasiment.
En plus, c'est des trucs hyper gras.
C'est le mois le plus meurtrier, hein, dans ce pays-là. C'est le mois le plus meurtrier, à chaque fois.
Donc... ce qu'il disait, c'était ça, c'est-à-dire que finalement, parce qu'ils avaient traversé la guerre civile algérienne, et en fait, oui, techniquement, les islamistes avaient perdu, mais il m'a dit, c'est bidon. C'est-à-dire qu'en fait, ils ont perdu militairement, mais ils ont gagné sur tous les tableaux. Sur tous les tableaux, ils ont construit des mosquées partout, ils sont en train d'en faire une à je sais pas combien de milliards de dollars, là, en plein Alger, une mosquée énorme, gigantesque, je vous invite à regarder, Google, mosquée, Alger, projet. Vous regardez ce qu'ils vont construire, c'est phénoménal. C'est une des plus grandes mosquées du monde musulman. Ça, pendant ce temps-là, les types dans la rue, il n'y a pas de boulot, il y a... Voilà, bon. Et il disait, bon, ben voilà, les mecs, ils ont islamisé à gogo. Et le phénomène, il dit, vous allez observer ce phénomène-là aussi chez vous, c'est-à-dire que plus les bougnoules sont violents, plus ils sont fanatisés, et plus, malgré les discours sur la tolérance, la société, dans les faits, devient musulmane. Et c'est très important à comprendre, parce que, pour le mécanisme dont on a parlé, il disait, c'est une religion qui est très étonnante, je me rappelle très bien comment il avait formulé ça, c'est une religion très curieuse, c'est une religion où plus ses adeptes sont violents, plus les autres s'y convertissent. Et c'est une religion, en fait, qui fonctionne sur des mécanismes très primaires, psychologiques très primaires, animaux dans le cerveau humain et qui sont très efficients en fait. C'est-à-dire que voilà, c'est tu te convertis ou on te tue.
Bon. C'est des mécanismes de peur et de soumission. Quelque part, on pourrait dire que finalement, le but des terroristes islamistes a été atteint.
Oui.
Et c'est précisément la peur de l'islam, c'est-à-dire l'islamophobie. Bah, on en est là.
Quel est le résultat d'un attentat en France, d'un attentat islamiste en France? Le résultat, c'est que les Blancs en viennent à se dire « Oui, non, mais cher Français, que faut-il faire? Il faut lutter contre l'islamophobie. » Voilà, c'est ça.
dès qu'il y a un attentat, il faut lutter contre l'islamophobie.
Bah, l'exemple, bon, là, vous l'avez sous les yeux, c'est-à-dire que...
Les attentats islamistes sont efficaces.
Non, mais là, il faut... Oui, c'est ça, les attentats islamistes sont efficaces. Et là la réponse à la question, elle est là. C'est-à-dire que 5 ans après Charlie Hebdo, donc les types qui ont été assassinés pour avoir blasphémé au titre de caricature sur Mahomet, 5 ans après, bon, bah, une lesbienne de 16 ans se fait virer de son lycée,
Et se fait attaquer
en justice à l'initiative du parquet. Faut le souligner, il n'y a pas eu de plainte contre elle, hein, par un tiers. Hein. C'est le parquet qui a pris l'initiative de la poursuite contre la gamine, hein. Parce que blasphème.
Ces propos sont très anodins.
Bien sûr,
Charlie Hebdo, pour le coup, des millions d'adolescentes qui peuvent avoir des propos pareils sur le christianisme. Il y en a des centaines et des centaines de milliers. Elle a rien dit. Elle a dit l'islam est une religion de merde. Bon, écoute, ce qui est la réalité.
oui, non, mais d'accord, mais simplement, notez bien qu'on est simplement 15 jours, je crois, 15 jours, même pas, après les commémorations de Charlie Hebdo.
Et donc, tout le monde disait je suis Charlie, machin.
Ouais.
Et donc, finalement, la résultante, quelques années après, c'est cette nana qui veut, un peu dans la ligne de Charlie Hebdo, quelque part. Les religions, c'est de la merde, je m'en fous. Bah non, en fait, t'es Charlie, t'as le droit de dire tout ce que tu veux, sauf, et puis après, t'as toute la liste, fait, t'as le droit de rien dire, finalement.
Ouais, voilà. Mais
de toute façon, il faut quand même bien se rendre compte d'une chose. À partir du moment où on a un gars qui est capable de descendre ses confrères à la préfecture de police, qui, dans l'administration française, aura encore les couilles de serrer les vis? À mon avis, personne.
Oui. C'est bien souligné. Le harpon de l'éternel. C'est ça. Et puis en plus, ils en ont mis tellement, notamment dans les douanes, partout, que tu sais pas, le mec, s'il va pas te sortir un schlass. Tu sais pas. C'est ça, la terreur, c'est ça. C'est que c'est une guerre sournoise. Tu sais pas qui, dans quel camp, quel truc, et voilà. Et voilà, donc le mécanisme il joue à fond là. Et qui c'est qui, et comme l'a très bien dit Diabolix, qui va aller faire du zèle dans les prétoires? Qui va aller faire du zèle? Je veux dire, voilà, c'est pour ça que c'est du théâtre. C'est du théâtre en réalité. Les pouvoirs publics, les préfets et compagnie, ils se pissent dessus. Ils ont la trouille de tous ces fanatismes. C'est parce qu'on voit bien, les tôles sont pleines, les hôpitaux psychiatriques sont pleins. On n'arrive à rien en foutre, hein. Il y a tous ceux qui sont en circulation. Maintenant, on fait revenir ceux de Syrie, parce que quand même, vous pensez, les pauvres petits choux, hein, on va quand même pas les laisser, hein, les pépites de la République, on va pas les laisser quand même entre l'Irak et la Syrie, on va les faire revenir. On va pas les garder 1000 ans au frigo, donc au bout de 3-4 ans, il y a déjà le premier, là, les premiers, ils sortent de tôle, ils sont déjà tous en train de sortir. Voilà, ils sont en libération. Est-ce qu'ils ont changé? Ils sont encore plus radicaux que quand ils y sont allés. Dans une démocratie, on n'arrivera à rien, c'est clair, quoi. C'est clair. Donc ils se gargarisent de mots. Voilà, on fait des grosses campagnes médiatiques. Macron, il fait des sorties. L'hydre islamiste. Tu sais, quand tous ces tocards là de politicards sentent que la pression monte de trop dans l'opinion, parce que, je sais pas, au ministère de l'Intérieur, on leur dit, ouais, là quand même, les mecs sont énervés. Allez, là je vais faire un bon discours.
Ce qui est marrant,
et voilà.
Ce qui est marrant, c'est que en ce moment le gouvernement fait une pub contre le harcèlement de rue. Donc évidemment, en mettant en scène des méchants blancs qui sont trop insistants auprès de jeunes demoiselles de couleur.
Non. Mais...
Bon, bref. Mais à la base. C'est plus ou moins un harcèlement, hein, des bougnoules qu'on demandait à la lesbienne s'il y avait moyen. Elle leur a dit non, il y a pas moyen, mais elle leur a dit assez gentiment, voilà, vous ne m'intéressez pas. Et là, en fait, t'as les deux sujets, quoi. Tu passes directement du harcèlement de rue, on sait très bien qu'il est fait par des racailles, à le blasphème de l'islamophobie. En l'espace d'une minute, une forme de synthèse qui est quand même assez exceptionnelle.
Oui. C'est bien résumé, ouais. Donc là aussi, un épisode qui symbolise bien, qui synthétise bien ce qui se passe en France. Hein. En France, mais attention, hein, comme a dit aussi Diabolix, en Europe de l'Ouest. Hein, c'est-à-dire, ce genre de truc qui pourrait se passer dans la banlieue de Birmingham, à Bruxelles ou bien à Cologne, sans aucun problème. Hein, même si en France, c'est beaucoup plus fréquent. J'ai l'impression quand même que...
Dans la banlieue de Birmingham, il y aurait quand même du viol quand même au milieu.
Oui, probablement aussi de la viande de kebab. Hein. Ça, c'est vrai qu'on a quand même affaire à du pakistanais. Hein. Ça,
oui, et même dans les banlieues françaises, il hein, y a une explosion de la prostitution des mineurs. Alors, est-ce que ce sont les quelques blanches qui restent sur place ou est-ce que ce sont des halogènes? Ça, j'en sais rien. Mais ça inquiète vraiment les autorités. Ils sont assez impuissants parce que, comme tu le disais, hein, je veux dire, les tribunaux sont totalement engorgés dans ces départements.
Ah bah oui. Peine perdue. Hein. Mais je trouve que, contrairement à la Grande-Bretagne, bon là aussi je pense que c'est parce que le monde musulman n'est pas monolithique, chers amis. Vous savez que vous avez les Pakistanais, vous avez les Afghans, puis vous avez les Algériens. Tous ces gens-là ont leurs coutumes. Et c'est vrai qu'en Grande-Bretagne, c'est vraiment le vitriolage. Hein. Les Pakistanais vitriolent. Donc ils passent à l'acide hein, le visage de leurs victimes. Ce n'est pas une pratique qui finalement est si répandue que ça en France. Hein. Ça arrive, mais c'est quand même rare, je trouve.
Ouais, c'est dommage.
Je suis assez étonné que les Algériens ne recourent pas plus fréquemment à l'usage d'acide pour défigurer les blanches qui leur disent non, en fait. Je sais.
Peut-être que, ils préfèrent le couteau.
Oui, non, je pense qu'ils sont un petit peu moins au fait de la chimie.
D'accord.
Oui, enfin, puis t'as les points aussi. Hein. Je pense, à mon avis, que les Maghrébins sont beaucoup plus violents. Je sais pas si vous avez... entendu parler du psychiatre qui a sorti un bouquin sur les violences, enfin, l'ultra-violence des adolescents, et le type admet, c'est 90% de bonnules. Hein. Mec, il y va...
Oui, j'ai vu passer ça. Récemment.
Ah, j'ai pas entendu parler de ça.
C'est très intéressant, vraiment, c'est un type qui s'appelle Maurice Berger, hein, donc, qui est un pédopsychiatre, qui bosse dans ce qu'on appelle les centres fermés. Et il explique ça très 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 bien, hein. C'est très généralement des bougnoules, et ils ont des QI de 50-60.
Ah mec, ouais.
Et c'est génial parce que le mec n'a pas de tabou, enfin il reste dans ses propos, il est clinique, tu vois, il est pas outrancier, mais il n'y a pas de politiquement correct, et c'est vraiment très très intéressant. Il est passé, je crois, sur Sud Radio, et il montre très bien que ces types n'ont aucune empathie, vraiment. Et c'est pas uniquement, si vous voulez, des cas particuliers où il y en aurait quelques dizaines, voire au grand maximum quelques centaines. Non, je veux dire, ça a été 200 messages de haine pure par minute, hein, pour cette jeune fille.
Ouais.
Il y a des millions et des millions de types qui sont dans ce cas, qui sont ultra violents, qui tabassent, ils ne savent pas pourquoi, ils voient un tabassage dans la rue, et ils en profitent pour pouvoir donner leur coup de pied, hein, parce que sinon, c'est vraiment de la chiasse humaine.
Mmh. Oui, en fait, il y a un lien, bon, c'est pas dit dans le bouquin du gars, parce qu'il bon, il est français, il veut pas mourir, quoi, mais il y a un lien entre bas QI et psychopathie. Donc ces gens-là sont des psychopathes tout ce temps qu'ils sont, hein. les types qui arrivent, ils te poignardent, ils savent pas trop pourquoi eux-mêmes, nous non plus hein, pour le coup, personne ne le sait, c'est un mystère, mais c'est pas un mystère, c'est juste que ce sont des fous parce que ce sont des débiles, de prime abord, et bon, bien fait, là ce serait intéressant que nos amis qui sont un petit peu plus calés sur la scientifique, fasse une émission là-dessus, sur la relation entre les bas QI et la psychopathie. J'attends ça avec impatience.
Et éventuellement l'islam aussi, ça ferait bien le lien.
Certains pays dans l'Asie du Sud-Est qui sont musulmans, bon, qui sont des Émirats, etc., assez particulier, mais sinon, oui, c'est une religion de débiles mentaux.
Ouais, enfin, quand elle arrive, tu la modifies tellement qu'elle a rien à voir avec ce qu'on trouve au Maghreb ou dans les pays arabes. Enfin, bon, je pense pas que les Birmans soient fous à ce point-là. Quoique...
Les Birmans, ils ont bien nettoyés. Non, non, nous on a un vrai islam, hein, prise directe avec l'Algérie. Non, non, c'est bien. Hein. Du vrai islam. Alors les amis, je vous propose de passer à la dernière partie de notre émission en ayant une discussion sur finalement l'événement hollywoodien de l'année, pratiquement, même plus, je crois. C'est du jamais vu, hein. C'est sans précédent. Je veux bien sûr parler de l'anniversaire de l'Holocauste. Hein,
joyeux anniversaire.
Joyeux anniversaire, hein, les 75... Ah. Les 75 ans de ce qu'ils appellent la libération du camp d'Auschwitz, donc par les tenanciers du Goulag, hein, qui étaient donc les cadres de l'armée soviétique de Joseph Staline, hein, c'est un grand libérateur. Et alors là, ils ont... comme je dis, c'est sans précédent, il n'y a pas d'équivalent. Hein. Une cinquantaine de chefs d'État à Jérusalem. Donc on libère d'ailleurs, on célèbre la fête de la libération, entre guillemets, d'Auschwitz à Jérusalem. Donc là, vous voyez, géographiquement, quand même, ça devient trouble. Hein. Je ne sais pas si vous avez noté comme moi. Là, vraiment, devant ce parterre, donc que des chefs d'État occidentaux ou chefs de gouvernement occidentaux, ils y étaient tous, hein, tous. Les grands discours, bien sûr. Alors, je vais vous donner un article, une recension de l'événement cité par The Times of Israel, en français. Vous allez voir, vous allez prendre la mesure des choses. Alors, il y a des vidéos en ligne, hein, vous pouvez regarder les prises de parole, c'est hollywoodien. C'est la remise des Oscars, hein. Vraiment, si vous voulez vous représenter la chose, à quoi ça a ressemblé, c'est la remise des Oscars. Ouais, vous avez là.
Combien, il y a beaucoup d'acteurs. Hein.
Et puis c'est les mêmes qui donnent les prix dans les deux. Hein.
c'est pas Woody Allen qui disait que la plus grande fête juive au monde, c'était la remise des Oscars?
Bah, il y en a une autre maintenant. Qui est plus grande.
C'est plus ou moins la même, quoi.
C'est plus prestigieux quand même. Maintenant, on a des chefs d'État, de gouvernement, des présidents, des premiers ministres. Bon. Alors, voici ce que nous dit cet article. Au premier jour de sa visite en Israël et dans les territoires palestiniens ce mercredi à l'occasion du 5e forum sur la Shoah, le président français Emmanuel Macron rencontre plusieurs dirigeants israéliens et palestiniens, blablabla. Il a ainsi rencontré ce matin le premier ministre Benjamin Netanyahou, puis son homologue israélien Reuven Rivlin à sa résidence officielle à Jérusalem. Lors de leur conférence de presse commune qui a suivi leurs échanges, auxquels a participé le chef d'état-major de l'armée israélienne Aviv Kochavi, présent afin de discuter de sujets militaires et régionaux, donc on n'est pas uniquement dans la commémoration, vous avez bien compris, le président Reuven Rivlin a salué le combat de son homologue français contre l'antisémitisme sous toutes ses expressions et a déploré les actes antisémites en France et à travers le monde. Il faut faire entendre une voix haute et claire pour condamner tous ces cas. Il faut agir sans concession pour s'assurer que cela ne se reproduise pas, a déclaré le président israélien. Donc sous-entendu que l'antisémitisme ne se réalimente pas. Hein. Et qui a remercié la France pour avoir adopté la définition non contraignante, entre guillemets, hein, de l'antisémitisme de l'IHRA, dont on a souvent parlé ici, qui inclut l'antisionisme. On en avait parlé dans une longue émission. Parce qu'il y a 25 points, enfin plutôt 25 exigences, le revolver sur la tempe, et ça va bien au-delà. Hein, oui. Voilà. En gros, vous donnez votre...
Dans le fait de supposer, de penser que Meir Habib serait plus un patriote israélien
que français, oui.
Qu'un citoyen français. Ça, quelque part, ça peut t'envoyer en prison.
C'est tout à fait.
Oui, enfin, l'antisémitisme, ça commence quand tu commences à ne pas obéir en brave goy.
Oula, là, tu dérives déjà franchement vers l'antisémitisme, attention. Alors, je poursuis. Rivlin a également condamné la procédure entamée par les PCIens contre Israël à la Cour pénale internationale. Oui, ces goy se plaignent. Donc, voilà. Emmanuel Macron a pris la parole en se disant heureux de se retrouver à Jérusalem pour la première fois en tant que président afin de participer aux commémorations de la Shoah. Il a également eu une pensée émue et amicale pour l'épouse de Reuven Rivlin, Nachama, décédée l'an dernier. « Je suis venu pour Israël aussi, pour ce que représente dans votre pays la mémoire de la Shoah, venu avec vous porter l'appel de Yad Vashem, un appel universel plus important que jamais, a-t-il ajouté, revenant ensuite sur l'ombre noire de l'antisémitisme qui se répand dans le monde, et notamment en France, d'après Emmanuel Macron. Donc cet antisémitisme revient à chaque fois que les démocraties sont malades. On se demande pourquoi elles sont malades, d'ailleurs. Que les crises sont là et ne concernent pas simplement les Juifs, mais notre destin commun, et pour ce qui de la France, toute la République, a expliqué le président français qui affirme que la France est prête à lutter avec détermination et force contre l'antisémitisme dans l'espace public comme virtuel. Nous avons aussi décidé de discuter et de poser très franchement la question de l'antisionisme, aujourd'hui profondément liée à la question de l'antisémitisme. L'antisionisme, lorsqu'il est la négation de l'existence de l'État d'Israël, est un antisémitisme, a affirmé le président. Ce qui ne veut pas dire qu'il deviendrait impossible d'avoir des désaccords, de critiquer telle ou telle action du gouvernement d'Israël, mais la négation de son existence relève bien aujourd'hui d'une forme contemporaine d'antisémitisme, a-t-il souligné. Le président a indiqué de nouvelles lois permettant de, je cite encore, « lutter plus efficacement contre les discours de haine et, entre autres, l'antisémitisme sur Internet qui serait voté prochainement en référence à la proposition de loi de la députée LERM Laetitia Avia. » Alors je précise que Avia n'a rien proposé du tout, c'est un projet du CRIF qui a été écrit par
Taïeb,
le CRIF.
Gilles Taïeb.
Ouais, Gilles Taïeb, enfin, voilà, les Juifs ont écrit ça. Et ils ont trouvé une négresse pour amener ça à l'Assemblée nationale, voilà, comme avec...
Négresse Gates... ne sait même pas utiliser un stylo, elle ne sait même pas ce que c'est. Hein.
Voilà, exactement.
Et elle mange des taxis.
Elle mange des taximans, elle mange des taximans. Alors, mais au-delà, dit-il toujours à Macron, c'est bien une forme de résistance qu'il nous faut opposer à cette dissolution des consciences. Dissolution des consciences, votre conscience se dissout. À laquelle nous assistons trop souvent, et ces lois ne suffisent pas pour changer l'âme des hommes. Il faut pour cela se souvenir, rappeler à chacun ce à quoi a conduit l'antisémitisme en Europe, l'Holocauste, et il faut au-delà se souvenir, continuer d'éduquer et de former, a-t-il conclu sur le sujet. Donc en fait, il faut se convertir au judaïsme, mais sans accéder aux privilèges, hein, bien sûr, attenants, qui sont strictement réservés au peuple élu. Hein. Donc il a conclu son discours en réaffirmant l'amitié de la France et son amitié personnelle à l'égard du président israélien. Invité par Israël avec une quarantaine de dirigeants mondiaux pour commémorer jeudi le 75e anniversaire de la libération du camp nazi d'Auschwitz, M. Macron est arrivé un jour plus tôt pour des rencontres diplomatiques. Alors voilà pour le déplacement de Macron, il y en a d'autres, hein, le vice-président américain était présent, Vladimir Poutine était présent, bon, avec 49, je crois, 50, 49 États représentés, Amérique du Nord, Amérique du Sud, Europe. Hein, voilà, les Asiatiques ne se sont pas montrés, les musulmans n'étaient pas très empressés, ils sont pas, je ne sais pas pourquoi.
Il y avait l'Arabie Saoudite quand même qui a fait une petite délégation.
Ah oui, c'est vrai, voilà. Mais sinon, les autres, non. Alors, là-dessus déjà...
Les alliés de l'Occident, donc.
Oui, enfin, oui. Des USA, quoi.
Ah, oui.
Alors, qu'est-ce que vous voulez me dire, à la fois de ce que je viens de lire, ou de l'événement lui-même, en sachant qu'on va progresser dans la discussion?
Ouais, moi, j'ai plein de choses à vous dire. Hein. Déjà, faire des nouvelles lois pour combattre l'antisémitisme, quelle originalité, ça n'a encore jamais été fait, je crois.
Oui.
Quand il parle de l'antisémitisme, attention qu'il y a de nouvelles formes sur les réseaux virtuels. Bon, ils n'ont pas osé citer démocratie participative, mais je pense qu'ils ont pensé très fort. Non, mais tout ça, c'est vraiment n'importe quoi. Les gens qui voulaient pas justement de liberté d'expression avant, bon, voilà, là, c'est fini, hein, vous la foutez aux chiottes, liberté d'expression. Tout étant antisémite maintenant, voilà. Les actes antisémites, ils augmentent depuis toujours, en fait. C'est ça. Tous les ans, ils nous pondent des chiffres.
Oui, ils disent que ça augmente, oui.
Oui, mais de toute façon, voilà. Mais de toute façon, maintenant, si vous crachez dans la rue et qu'à trois blocs, il y a une synagogue, quelque part, est-ce que c'est pas un acte antisémite? Si vous respirez à côté d'un juif, je pense que vous lui piquez de l'air, et du coup, c'est un acte antisémite. Bon, il faut dire que les juifs ont un gros pif, donc peut-être qu'ils ont besoin de plus d'air. Non, mais tout ça est complètement délirant.
Sur un truc, c'est sur l'internet. Bon, je te laisse la parole, Derek, vas-y.
Oui, non, je vais rebondir sur le point qu'a relevé Pierrot sur les actes antisémites qui augmentent ou qui diminuent. Alors, il faut savoir que le recensement des actes antisémites selon les juifs, hein, encore une fois, c'est même pas un truc officiel de la justice, c'est les juifs. C'est-à-dire qu'un type qui appelle une pizzeria pour dire « ouais, juif, machin », acte antisémite. D'accord?
Oui.
Il y en a plein comme ça. Je sais plus, il y a 3-4 ans, je m'étais amusé j'avais trouvé le document où il y avait le détail de tous les actes antisémites. Bon, c'était le truc dans le chiotte, un type a foutu une étoile de David, il avait marqué ça juif, tu vois. Acte antisémite.
Est-ce que du coup, ils comptent les rabbins qui taguent eux-mêmes leur synagogue avec des croix gammées?
Bah, bien sûr, plutôt deux fois qu'une. Mais donc, tu as ces trucs-là, et bon, en fait, d'une année à l'autre, même avec ces trucs-là, ils arrivent à avoir des baisses, des fois. Donc, les baisses, ils n'en parlent pas, ils se calment, ils ont des baisses. Alors, quand ça a bien baissé et que ça remonte un tout petit peu, c'est comme les morts sur la route, tu vois. Si tu écoutes les médias, les morts sur la route, depuis 50 ans, il y en a de plus en plus. Alors qu'en fait, ça diminue par 4 ou 5. Hein. C'est ça. Donc il faut encore diminuer, il faut rouler à 70 sur les autoroutes, etc.
Oui, alors,
les actes antisémites, c'est pareil.
Pour les chiffres, il suffit de regarder le sketch des inconnus, hein, des chiffres version juive.
Tu vois. Et les intérêts.
Tu as exactement le comptage des actes antisémites en France. C'est exactement
ouais, c'est
la
ça.
Même chose.
Dès qu'il veut faire un petit peu de truc.
Ça doit être les mêmes qui comptent les 6 millions de... Enfin, bon.
Non, alors c'est central. Revenons peut-être au point de départ, au nœud gordien, avant de revenir sur ce que déclare Macron. C'est l'objet en lui-même, c'est-à-dire cet événement spectaculaire. On est dans le spectacle. Ça, c'est le premier point. On est dans le spectacle. Hein. J'ai parlé des Oscars, c'est ça.
On est dans la sidération.
Oui. Non, enfin, le mot est spectacle. C'est une mise en scène. C'est une mise en scène. Donc, il y a une tribune, il y a une scénarisation, il y a une narration, il y a la présence massive des médias. Ça a été relayé, mais massivement, dans tous les médias occidentaux. Il faut prendre la mesure de ce qui vient de se passer. Il n'y a pas d'équivalent. En plus de 30 ans, on n'a jamais vu ça. On n'a jamais vu ça. C'est vraiment... du spectaculaire. Il fallait du spectaculaire. On a commandé, quand je dis on, les Juifs ont commandé du spectaculaire. Il y a eu du spectaculaire. Alors, jusque dans la presse régionale, hein, je veux dire, je citerai encore Ouest France, tous les jours, vous avez les articles sur les migrants tous les jours, là c'était tous les jours aussi. Auschwitz, Dachau, Ravensbrück, la survivante X qui nous raconte le truc, le cousin qui a caché le machin du truc. Dans tous les sens, hein, dans tous les sens.
Le faussaire de faux papiers.
Ah ouais. Alors ensuite, vous avez eu la contre-narration. France Inter 4, France Culture 4 numéros sur les faussaires de l'histoire. Alors là, c'était Forisson, la fabrique des trucs, des bizarres, les trucs pour débunker des mecs qui racontent des conneries, tu vois, soi-disant. Bref, bon. Donc du spectaculaire. Et ils ont mis les moyens. Ils ont mis les moyens. On a convoqué 49 chefs d'État et de gouvernement. 49 chefs d'État ou de gouvernement, comme je l'ai dit, et c'est très important, tous occidentaux, à l'exception de l'Arabie Saoudite, mais tous occidentaux. C'est-à-dire que c'est quelque chose qui n'intéresse pas les Asiatiques, ça n'intéresse pas les Africains, ça n'intéresse pas l'Inde, tous ces pays-là s'en foutent. Par contre, le monde occidental est tenu et se déplace. Pour donner du poids à l'événement, hein, je veux dire, et Poutine. Donc, pour donner du poids à l'événement, c'est-à-dire que c'est pas juste un happening, il y a une dimension politique. Ce sont des États qui sont représentés. Si des États se déplacent, c'est pour mettre en place une politique d'État, on s'entend. Bon. Donc, le côté spectaculaire, le côté politique et étatique, bref, une démonstration de force qui doit écraser, si vous voulez, le quidam qui est exposé à ce spectacle, hein, par le truchement des télévisions, de la presse écrite, de la radio, des reportages, des témoignages, etc. Voilà. Il y a vraiment, et là je rejoins ce que tu as dit, Derek, le phénomène recherché de sidération. Et là, j'enchaîne en disant qu'on n'est pas uniquement... dans l'événement ponctuel, on voit bien, et de par la dimension de l'événement, on voit bien qu'on est dans autre chose. Et on est très clairement dans le religieux. C'est une réunion à caractère religieux. Ce qu'on voit là, c'est la démonstration de force de la religion officielle du système occidental, principalement États-Unis, Europe, quoi, mais aussi Russie. Et cette idéologie, même si Poutine a apporté des... Il a essayé de faire entendre sa petite musique à lui. Mais bon, grosso modo, c'est ça. Et ça ne se passe pas à Auschwitz. Ça, c'est le point aussi qui est important. Ça peut paraître un détail, mais c'est très important. On voit bien, pour ceux qui ne comprendraient pas, que le mythe fondateur, non seulement de la religion occidentale dont se servent les juifs pour tenir les États entre leurs mains, et l'Holocauste, mais que c'est aussi la religion qui leur permet de justifier l'existence de l'État d'Israël. La démonstration est faite, puisque d'Auschwitz, on atterrit à Jérusalem. Et notez bien que Jérusalem est une ville dont les frontières ne sont pas reconnues universellement, et que les Juifs prétendent l'annexer en totalité. Et tous les États occidentaux, qui par ailleurs sont si bavards sur les normes internationales, etc., sont allés très docilement en pèlerinage à Jérusalem, avec Macron au mur des lamentations à côté de Meir Habib. Hein. Oui. Imaginez Macron aller au Vatican prier pendant une heure, au pied de l'hostie en compagnie du pape. Vous en entendriez parler hein, dans les médias français. Hein, vous en entendriez parler.
Ça non, mais il n'a même pas souhaité Joyeux Noël. Hein,
il n'a même pas souhaité Joyeux Noël. Et il est au mur des lamentations. Il n'est pas que à Yad Vashem, il est au mur des lamentations. Donc il y a une dimension religieuse. Donc on voit bien que on est non seulement dans le mythe de l'Holocauste, non seulement dans la déification du juif dans le monde occidental, mais que cette déification passe par un État qui est la manifestation visible de cette puissance religieuse, l'État d'Israël. Et il faut aller en pèlerinage. Et moi, je dis que ceux qui croient que l'Occident est devenu athée, non-croyant, etc., c'est des conneries. Il y a une religion d'État, il y a des gens qui y pratiquent, il y a des États qui adhèrent à la religion officielle, et vous n'avez qu'à regarder les têtes couronnées, aller à Jérusalem, cirer les pompes du maître. Voilà. Et on est au cœur de ce truc-là. On est au cœur de ce truc-là. On est au cœur de la nouvelle religion d'État. Et pour tous ceux qui... Parce qu'on l'a souvent dit dans l'émission, et on pouvait le démontrer, mais c'est la première fois où ça revêt un caractère étatique, international et univoque. En un point et en un lieu dont le caractère est vraiment indiscutable. Et pour moi, ça, c'est un vrai tournant. Et que les Juifs aient ressenti la nécessité absolue d'organiser ça, ça veut dire à quel point les types sont pas sur leur coup en ce moment.
Mais ils sont pas sur... Ouais. J'ai vu un reportage à propos de ça, de Macron, justement, dans un mémorial qui a été fait par les Klarsfeld, une espèce de truc où tu n'avais que des vieux. Donc si on t'allait écouter des petits juifs là, qui parlaient en mode avec des lettres de juifs ressuscités, etc. Et tu avais pas que des juifs, tu avais aussi un gros nègre, tu vois, qu'on avait fait venir pour parler en français devant le président Macron. Et à la fin, Macron a vu un nègre, donc forcément il s'est dit, tiens, peut-être y a-t-il de la transpiration, je vais aller me frotter à lui. Et il est allé donc questionner le nègre à propos de l'indicible. Du coup, il dit, cher compatriote, que pensez-vous? Comment avez-vous connu l'indicible? Le connaissiez-vous, etc. Donc le nègre, en fait, il disait que un an avant d'être là, il ne connaissait pas du tout. Bon, en fait, il connaissait. C'est dit en cours depuis la maternelle. Hein, cette fable de l'Holocauste, puisqu'il n'a pas rien à foutre. Ils ont pris un nègre, ils se sont dit, bon, Macron, dans un an, il vient en Israël pour la Shoah, il faut qu'on représente la France dans toute sa diversité, donc il nous faut un nègre. Donc on va coacher un nègre, c'est-à-dire que ce pauvre nègre, ils l'ont torturé pendant un an, avec des discours d'Elie Wiesel, de Martin Gray, et de Simon Wiesenthal. Quoi. C'était bon. J'ai quelque part de la pitié pour ce semi-homme. C'est assez parlant de ce qu'est la société française en ce moment. C'est que les jeunes, et d'autant plus les jeunes marrons, n'en ont absolument rien à foutre que 7 milliards de juifs aient été transformés en savants par Adolf Hitler par l'intermédiaire de chambres à gaz magiques. Ils en ont absolument rien à foutre, sauf à ce qu'on les torture individuellement pendant des mois et des mois.
Mais il y a quelque chose qui, moi, me fait franchement marrer. En fait, Faire de la politique, c'est véritablement quelque chose, mais de répugnant. Pour faire de la politique, il faut véritablement être un tueur. Il faut être capable de supporter une quantité de saloperies absolument incroyable. Il faut sucer des bites, lécher des culs pour pouvoir arriver à être quoi ? À être chef de l'État. Et au moment où t'es chef de l'État, et on en a un exemple extraordinaire, qu'est-ce que t'es obligé de faire ? T'es obligé de te retrouver à Yad Vashem avec une kippa sur la tête. Non mais c'est complètement débile, quoi.
Ah oui, tout à fait, bien sûr, oui, tout à fait. C'est un mythe fondateur, c'est un mythe originaire. C'est-à-dire que c'est un mythe qui permet de fonder l'ordre en place. Donc, qui permet de légitimer l'existant, de distinguer le bien du mal, et de conforter ceux qui font... Enfin, qui conforte l'état existant et de diaboliser ceux qui le contestent, en fait. Donc, c'est ça la fonction d'un mythe originel. Et le problème, c'est que normalement, le mythe originel est censé renforcer la cohésion du groupe. C'est-à-dire qu'il a, il a une fonction saine d'explication du monde et de mobilisation de l'énergie de la société pour sa propre perpétuation et à des fins vraiment positives. Et d'ailleurs, c'est ce qu'ils disent. Écoutez bien ce qu'a dit Macron. Il dit, il ne faut pas oublier hein, le devoir de mémoire pour pas que ça se réitère, machin. Donc, la perpétuation est inscrite dans la ritualisation de ce qu'ils appellent le souvenir de l'Holocauste. Donc, nous sommes bien dans un mythe avec une fonction sociale très clairement délimitée, donc de conforter le pouvoir établi donc des juifs, hein, de condamner tous ceux qui pourraient contester l'ordre en place, et de guider l'action de la société. On est vraiment là-dedans. Et ça passe donc, effectivement, par l'État, par le législatif. Et Macron s'est fait fort d'expliquer que c'était pas uniquement un serment, c'était pas uniquement une prise de parole, ça se traduisait par des lois, ça se traduisait par des politiques. Et nous sommes dans un État religieux. Et comme je disais, le but du mythe originel, c'est de renforcer la cohésion de la société, sauf que ce mythe-là, il est fondamentalement édifié contre la race blanche. C'est un mythe raciste. Ce que très peu de gens identifient. C'est un mythe raciste, profondément anti-blanc, qui grave dans le marbre des États d'Europe et des États où partout où vivent des blancs, la haine de la race blanche, en disant ce que le juif cherche à faire grâce à cette religion, c'est dire à son bétail blanc qu'il est fondamentalement une saloperie. Et que s'il ne suit pas l'ordre du juif, il va basculer dans le mal. C'est ça le chantage psychologique et moral auquel se livre le juif en se légitimant comme victime. Donc on a une inversion complète de toutes les valeurs positives d'un mythe fondateur. C'est un mythe destructeur. Et c'est le mythe du juif destructeur qui l'impose sur les sociétés aryennes. Et en toute logique, ce mythe détruit les sociétés blanches, partout où il est adopté. C'est-à-dire que dans tous les pays où vous essayez de mettre en place des valeurs positives, nationales, de cohésion, etc., constamment, on vous menace...
chambre à gaz nazi.
Et notez bien que Vladimir Poutine, son intervention était peut-être la plus habile, peut-être. Alors, entre guillemets habile, hein, parce que moi, c'est pas ce que je ferais, mais je vois où il va en venir. C'est-à-dire que le mec, en raison du passé de l'Union soviétique, etc., de l'armée rouge, il peut pas se distancier. D'abord, je pense d'abord qu'il a pas envie de se distancier, mais il essaye. Il demande une exemption, en fait. Il dit la Russie s'exempte. On est exempté du devoir de repentance. Il n'a pas dit parce que nous, on a libéré Auschwitz, vous voyez ? Donc il dit non, la religion de l'Holocauste.
Chat-perché.
Voilà, chat-perché. C'est pas pour nous. C'est pas pour nous. On a libéré Auschwitz. Voilà. Et il a obtenu de Netanyahou et du président de Katz, de toute seule ministre, des remerciements officiels. Et Poutine.
Gandalf.
Ouais.
Excuse-moi de t'interrompre, mais en fait, il existe une vidéo de Vladimir Poutine, bon, qui est assez mal traduite, je dois l'avouer,
ouais.
Où il s'adresse à un parterre de rabbins.
Oui, je l'ai vu, ouais.
Voilà, et en fait, là, il met carrément les choses au point, et tu vois que les types qui sont en face, ils mouftent pas. Hein.
Oui, mais enfin, bon, donc sa stratégie à lui, c'est de dire, L'Holocauste, c'est très mal, mais vous pouvez pas utiliser ça contre nous, parce que on est ceux qui avons libéré le camp, etc. Bon.
Ouais, c'est-à-dire que même lui, du point de vue russe, du point de vue héritier de la puissance soviétique, c'est plutôt à avoir de bon œil, ce truc-là, par rapport aux oppositions qu'il peut avoir avec l'Occident. Et les États-Unis en particulier.
Oui, c'est-à-dire qu'en fait, il dit pas...
La narration n'est pas la même que
chez nous. La narration n'est pas la même, c'est-à-dire qu'il essaye... Enfin, en gros, il essaye de squatter la narration de l'Holocauste à son propre profit.
Voilà.
Voilà, et en disant à tous les autres, les Allemands, eux, ils se mettent de la cendre sur la tête. Voilà, c'est pour eux, ils n'existent plus, quoi. Mais tous les autres, et lui, il essaye de s'en distancier. Bon, je l'observe, je dis pas que c'est ce que je ferais, mais je suis pas russe, donc je n'ai pas une pensée russe et je n'ai pas un point de vue russe. Mais je tiens à marquer quand même qu'il y a une nuance. Dans ce que dit Poutine, même si par ailleurs il s'affiche avec toute cette juiverie, ce qui moi me serait impossible humainement, quoi. Mais bon, voilà. Donc j'ai expliqué, à mon sens, que la fonction de ce mythe originel et fondateur du nouvel ordre mondial, peut-être, en tout cas du nouvel ordre occidental, dans lequel clairement les nations blanches sont disqualifiées, et ce qui légitime ensuite l'activisme juif pour le monde sans frontières, l'immigration, le refus de toute hiérarchie, de tout ordre, fasciste par nature. Voilà, il peut rien avoir de vertical.
Après, ce que tu dis, on a le mythe du péché originel Occident, qui est très ancré, donc c'est déjà présent, j'ai envie de te dire.
Disons que c'est une judaïsation d'un mythe qui était juif à l'origine, mais qui était porté par le catholicisme dans un certain contexte, mais qui pouvait avec le péché originel, le sentiment de culpabilité, qui est très profond, quoi. C'est-à-dire que l'humanité est fondamentalement mauvaise.
Oui, puis pas l'humanité, c'est plutôt les individus. On passe du péché originel, qui est quand même assez individuel, parce qu'on est tous pécheurs par nature, en fait, un péché collectif
et
qui ne s'adresse uniquement aux blancs, effectivement.
Ouais. Oui, on est dans la revanche tribale. Et en fait, là, on voit qu'on rentre dans l'économie du judaïsme suprémaciste. On voit qu'on est que l'Occident, que les démocraties participent de l'économie religieuse juive. Donc la fonction des États démocratiques, c'est d'expier.
Je ne sais pas si tu as vu, mais Macron a fait sécession. Il y a eu un schisme parce qu'il a accordé, je ne sais pas si les Juifs vont être d'accord, de partager la secte avec les Bougnoules.
Ça c'est important, oui, effectivement. Alors, on a parlé des Arabes, on a parlé des musulmans et on a parlé du communautarisme. Alors Macron, on lui demande un discours, vous savez, des discours, c'est très utile. Enfin, on lui demande un discours sur le communautarisme et l'islam. Alors lui, il dit, bon, d'accord, très bien, voilà, mais il faut pas que ça soit univoque, il faut aussi que la France reconnaisse ses torts. Alors, je vais pas citer l'article de presse où ça se trouve, vous pouvez le retrouver en ligne, mais c'est marrant quand même. Dans l'avion qui le ramenait d'Israël, où on a vu ce que sous-entend donc de participer de la nouvelle religion et du nouveau Vatican, parce que vous avez
après marqué, le scénario grotesque, la scène grotesque où il s'est pris pour Chirac, alors que c'est un très mauvais acteur, on voit très bien qu'il fait semblant pour brouiller les pistes et essayer de contenter tout le monde, quoi, ménager le rabbin et le bougnoul, c'est assez grotesque.
Mais ce qui n'a trompé personne. Mais ceci étant dit, donc après tout ce qu'on a dit, il repart dans son avion direction la France et là il accorde une interview. Et on lui demande en gros la question de l'islamisme, du communautarisme, et il dit oui bien sûr il y a des choses à dire, mais il y a quand même des problèmes du passé, de mémoire, etc. Donc mémoire, devoir de mémoire, tiens. Il va falloir que la France change de ton, en gros. Et alors on lui demande, c'est-à-dire, etc., la guerre d'Algérie, vous savez, il y a des plaies encore ouvertes, et je pense qu'on va faire quelque chose d'assez similaire à ce qu'a fait Chirac sur l'Holocauste. Hein, c'est-à-dire, là, 95, Jacques Chirac affirme que la France, consubstantiellement, est coupable donc, de l'Holocauste, hein, donc, du supposé génocide des Juifs comme vous, avec des saucisses de Strasbourg. Hein, et je dis saucisses de Strasbourg pour ceux qui ne savent pas, c'est qu'on a des survivants qui disent, qui affirment que les Allemands
les
faisaient...
Les Juifs ont été transformés en saucisses, et donc...
Pour les manger le soir même, pour les manger le soir même.
Voilà.
Voilà.
Et puis, des Juifs gazés. Comme voilà. Ça.
Oui. Bon, donc voilà, c'est pour savoir dans quel univers on est quand même. Hein.
Et, c'est très crédible. Hein.
Très crédible. Et donc ils disent que bah, sur la base de la reconnaissance de ce crime des crimes là et du rôle de la France, on va faire la même chose pour la guerre d'Algérie. Alors là, il y a eu des cris d'orfraie en disant mais comment, quoi, etc. Mais là, je vous donne la parole bien sûr. Mais comment voulez-vous que quelqu'un stoppe Macron dans son truc? C'est-à-dire qu'avec quel argument intellectuel on va dire « Vous pouvez pas vous excuser, vous pouvez pas reconnaître la faute, le truc, le machin. Pourquoi ?»
Bah, il ne faut pas être intellectuel, c'est-à-dire qu'il cherche à ouvrir une ligne de crédit vers le...
Tout à fait.
Bah, l'Algérie. Donc...
En fait, ce que dit Macron, il faut lire entre les lignes. Ce qu'a dit Macron, c'est dire « Chirac a été assez malin pour s'acheter le soutien des Juifs, bah, moi je vais être assez malin pour m'acheter le soutien des Algériens. » C'est ça qu'il faut
comprendre. Ça ne se prend jamais le soutien d'un bougnoul. Hein.
Ah non, mais je suis d'accord. Mais c'est son mécanisme intellectuel. Et il dit, voilà, ça va apaiser tout le monde. Alors là, je vous donne la parole. Est-ce que d'après vous, bon, imaginez, truc en grande pompe, la colonisation a été un crime contre l'humanité, l'armée française a commis des crimes, là, il livre en pâture Bijard et compagnie. Bon, il fait repentance, il demande pardon, il invite le président algérien, voilà, bon, il fait tout ce qu'il faut faire dans un discours, etc. Il va même faire un musée du crime des crimes en Algérie. Est-ce que d'après vous, enfin, qu'est-ce qui va se passer d'après vous après dans la tête des bougnoules, en France ?
Monnaie, monnaie, monnaie. Ça, c'est l'aspect matériel, mais il y aura...
Oui, il n'y a pas que ça, il y a un aspect spirituel comme sur la Shoah, c'est-à-dire que Macron il a dit hein, t'es coupable, tu nous as exterminé, bah, espèce de fils de pute. Donc maintenant vas-y excuse-toi ou je t'encule. Voilà, c'est ça. Hein. En gros l'Algérien va te demander des sous parce qu'il a beaucoup souffert en te demandant d'aller te faire enculer.
Derrick, excuse-moi, mais bien franchement. On a les youps qui nous sont tombés dessus pour nous réclamer de la thune. Maintenant, on a les Algériens qui vont nous tomber dessus grâce à Macron pour nous réclamer de la thune.
Ça vient.
Après, tu auras les nègres, mais alors essaye d'imaginer quand les témoins de Jéhovah vont s'y mettre.
Et moi, j'aimerais attirer votre attention sur une chose. Bon, pour ce qui est des relations entre les youpins et l'Allemagne, on sait tous ce qu'il en est. Les Youpins vont les faire cracher à mort jusqu'au bout. Ils n'auront pas de répit, les pauvres teutons. Mais maintenant, on voit quelque chose de similaire que vous venez de décrire, qui s'applique à la France, en jouant moins sur la Shoah, mais en jouant plus sur l'aspect colonisation, l'ancienne colonisation, et établir une culpabilité de la France et du français blanc. Il y a une chose que vous ne savez peut-être pas, c'est que la même politique se développe en Belgique. En l'occurrence, un Anglais, que moi je suis convaincu qu'il est juif, qui s'appelle Adam Hochschild, qui a écrit un bouquin il y a une petite vingtaine d'années, et qui reprochait à un roi des Belges, Léopold II, au XIXe siècle, d'avoir été responsable de la mort de 10 millions de nègres congolais, en tirant sur la ficelle, il faut bien le reconnaître, mais il l'a dit, il l'a écrit. Aujourd'hui, on parle de 15 millions. J'ai vu il n'y a pas longtemps un article dans je ne sais plus quel journal belge où on invoque 15 millions d'absents, donc je dirais de non-apparus, hein, parce qu'on peut discuter sur la chose. Et il y a une campagne, je pense que Diabolix pourra confirmer, qui se lance en Belgique sur les crimes... On n'ose pas encore dire des Belges, on dit de Léopold II, mais qui dit Léopold II dit les Belges. Et je pense que ça va, tous les pays européens, d'une façon ou d'une autre, vont subir cette politique qui est montée de toutes pièces, qui est mise en place par nos castes politiques respectives. Et nous allons en crever si nous ne nous bougeons pas.
Alors moi, je vois un autre aspect à cette ligne de conduite, là, surtout dans le cas de la guerre d'Algérie. Pour moi, si Macron devait le faire, et quelque part, je souhaite politiquement qu'il le fasse, ce que ça amènerait, c'est en fait ce serait le feu vert à tous les salafistes, tous les crouilles de France et de Navarre, les fraîchement débarqués, pour égorger du français partout où il les trouve. C'est-à-dire,
c'est la légitimation de ce que je viens d'expliquer.
Oui, non, mais tout à fait. C'est-à-dire que c'est la légitimation, parce qu'en fait, le bougnoul, vous parliez d'argent. Oui, bien sûr, le bougnoul pense au pognon, mais il pense surtout au couteau. C'est-à-dire que le juif pense au pognon. S'il peut, de temps en temps, s'organiser pour qu'un goy meure dans le feutré, il le fait. Mais enfin, il évite quand même le contact frontal, parce que le juif, il n'aime pas le contact frontal. L'arabe, lui, c'est le couteau qui lui plaît. Et pour moi, ça démultiplierait, si vous voulez, c'est l'impunité organisée. C'est-à-dire que, voilà, tu tues un Français, c'est normal, c'est une réparation pour la guerre d'Algérie. Alors, moi, j'y vois ce feu vert-là. Évidemment, Macron, il voit rien. Macron, il est dans... comment dirais-je, le clientélisme ethnique le plus cynique, il est prêt à tout. Il cite Chirac, qui était un escroc fini, qui a courtisé les Juifs de manière éhontée pour se faire élire, ce qui a abouti à cette reconnaissance dite de la participation de la France dans le... Il n'a pas cité Vichy, il a dit la France en totalité et pour toujours, dans le soi-disant holocauste. Et ben voilà, on rentrerait dans la même logique. Alors, je veux dire une chose. J'ai écouté le discours donc du boomer qui sert de président à l'Allemagne. Alors, il est arrivé, comme une loque, aplati, voilà, rampant donc devant cet État microscopique qu'est l'État d'Israël. Il faut mesurer ça. Il y a 50 États qui arrivent sur un État qui fait la taille d'un timbre-poste.
C'est ça.
Hein ? Les États-Unis d'Amérique, Allemagne, Russie, ils arrivent tous dans un timbre-poste. Le rapport de force, regardez le rapport de force. Si on mesure juste puissance militaire, puissance économique, etc., puissance démographique, on se demande comment 50 États se retrouvent sur un timbre-poste. Donc il y a quelque chose qui se passe en coulisses qui explique un tel déséquilibre. Il y a quelque chose, quoi. Et donc le président allemand arrive, l'Allemagne, c'est pas quand même non plus rien du tout. Et alors, il dit quelque chose de très frappant, c'est qu'il adopte la vision du monde juive. Bon, c'est logique, c'est cohérent, le mythe fondateur a été réécrit. C'est un mythe hébraïque. Et il dit, l'Allemagne est coupable de manière imprescriptible. Je lis le compte Twitter de Meir Habib, frénétique. Formidable discours du président allemand qui souligne la culpabilité imprescriptible du peuple allemand. Donc, c'est-à-dire, les Allemands sont coupables pour jusqu'à 3 millions d'années. Ça n'arrêtera pas. Ça, c'est de la logique de confrontation raciale entre groupes. Donc, on n'est pas dans la justice. La justice, c'est ceux qui ont commis quelque chose, qui répondent de leurs actes, et qui doivent ensuite affronter les conséquences. Ça, c'est de la justice. On n'est pas là-dedans. Là, on est dans la vengeance génération après génération avec le coupable et moi je vois ce président allemand, si je l'avais en face de moi, je lui cracherais à la gueule, je vous le dis, je le ferais physiquement.
Dis son nom parce qu'il faut le maudire.
Je crois que c'est Steinmeier, je crois.
Frank-Walter Steinmeier.
Voilà. Donc ce type là donc parce que toute sa génération là de baby boomer, les mecs nés après la guerre, c'est leur secte à eux, hein, en Allemagne. Hein. C'est toute la secte des vieux, là, les 70 ans et quels, là, c'est la secte des vieux. Leur religion, c'est de se haïr et de célébrer le juif. Hein. Ça, c'est leur truc. Hein. Ce mec-là dit qu'un jeune Allemand qui vit dans l'Allemagne d'aujourd'hui, donc entouré de Syriens, avec une dette pas possible, etc., il est coupable et doit se repentir vis-à-vis des juifs. Non seulement lui, mais celui qui naîtra dans 10 ans, celui qui naîtra dans 20 ans, celui qui naîtra dans 100 ans, etc.
Ah, oui, c'est pour l'éternité, c'est le châtiment à perpétuité.
C'est ça. Alors ça se comprend de la part des juifs, c'est-à-dire que les juifs sont des escrocs, et ils iront toujours au maximum pour te faire les poches. Mais de la part d'un goy, et d'un Allemand d'accepter de ramper à ce point pour enfoncer la tête de gens qui sont même pas nés sous l'eau pour t'assurer que toi, tu te sentes mieux dans ta peau, faut être la dernière des ordures. Faut être la dernière des ordures. C'est pour ça que c'est de la fausse empathie et c'est du faux altruisme. Parce qu'en fait, cette espèce d'outre-là de Steinmeier et toute sa génération, leur thématique à eux, c'est comment moi je me sens bien dans ma peau. Et si pour me sentir mieux dans ma peau, je dois condamner toutes les générations suivantes jusqu'à disparition complète pour le triomphe des Juifs, je vais le faire. Ça en dit long quand même sur cette génération de l'après-guerre, hein, je veux dire. Ça en dit long quand même.
Absolument. Maintenant, il y a autre chose. Je voudrais faire une toute petite parenthèse, mais liée au sujet. Les Américains, on en pense ce qu'on veut. Mais eux, depuis maintenant des décennies, ont défini ce qui nous est tombé sur le dos par des initiales qu'ils dénomment ZOG, Zionist Occupation Government,
oui,
gouvernement ZOG. D'occupation sioniste. Et ils ont compris ça depuis, mais des décennies. Hein.
Oui, tout à fait. Bah parce que un des principaux sièges du gouvernement de ZOG, c'est les États-Unis. Hein.
Acronyme, les initiales, pardon.
Bien sûr. Alors, messieurs, donc, mythe fondateur, puissance politique, État religieux, en plus, l'État d'Israël, en plus, ça c'est le plus drôle, c'est que tout ça c'est au nom de l'antiracisme. Hein. Si les gens se posent des questions, mais pourquoi l'antiracisme est aussi lancinant, pourquoi plus on s'éloigne de la guerre, plus c'est puissant, plus toutes les lois terroristes en faveur de l'invasion, la loi Avia étant la dernière, se succèdent les unes aux autres, ça, comment se fait-il? Bon, je pense que là, ils ont commencé à avoir des éléments de réponse. Et tout ça est fait au nom de l'antiracisme, et avec la chambre à gaz magique d'Adolf Hitler, que Forisson a bien débunké, et de la fausse justice tribale qu'est Nuremberg. D'accord?
Une petite parenthèse à ce sujet-là. Excuse-moi de t'interrompre, ou alors tu achèves, je le dirai après.
Ouais, j'achève. C'est le nouveau Vatican qui se donne en spectacle, c'est pas l'ancien, plus personne n'y va, Bergoglio n'attire pas les masses, hein, c'est clair, encore moins les chefs d'État. Donc la puissance réelle se trouve à Jérusalem, avec cet État qui se revendique de la religion de l'Holocauste, qui est censément antiraciste. Mais quand on regarde ce qu'est l'État d'Israël, est-ce que c'est un État antiraciste? Pas du tout. Netanyahou vient de faire passer une loi qui consacre le caractère racial de l'État d'Israël, et pas religieux. Et pas religieux. Officiellement, l'État d'Israël n'est pas fondé sur la religion, il est fondé sur l'ascendance. Vous pouvez être juif et pas être croyant. C'est par la race, hein, par la filiation. Donc tout ça pour dire que il est bien entendu que la repentance et l'antiracisme, c'est pour les nations blanches. Pour l'État d'Israël, c'est l'exaltation de la race, c'est l'exaltation du pouvoir militaire, c'est l'exaltation de la soumission de tous ceux qui se trouvent à portée, hein, essentiellement les Arabes, donc on les soumet par la force armée, on est légitime à prendre leurs terres, il y a des revendications d'annexion, j'ai vu que le candidat qui est face à Netanyahou, vous savez, il y a une compétition là pour déterminer qui sera le prochain Premier ministre, là, il vient de dire « on va annexer la vallée du Jourdain ». Donc voilà, les types assument le fait de prendre les terres des autres populations, etc. C'est ces types-là qui viennent vous regarder le sourire en coin et qui vous disent « Toi, maintenant, Goy, tu t'excuses, t'es un sale raciste, tu crois, tes ancêtres ont été nationalistes, ont voulu défendre leur territoire, etc. Vous nous avez expulsés parce que vous êtes des racistes, des xénophobes. » Faut voir à quelle race on a affaire, quand même. Donc je voulais souligner ce point-là. C'est ce que je voulais souligner.
Moi, je voulais appuyer sur un autre aspect lié. C'est que tu as parlé du Vatican, oui, en disant le nouveau Vatican. Moi, j'aurais tendance à dire que les Juifs s'inspirent d'un ancien Vatican, un ancien Vatican géographique, je ne parle pas d'un concile. Parce que ils ont réussi, avec la complicité de nos castes politiques, à faire passer des lois qui sanctionnent, entre autres, l'antisémitisme. Ils ont pu, comme tu l'expliquais, enfoncer le clou avec l'Holocauste Et avec les condamnations du tribunal de Nuremberg, enfin les conclusions plutôt, et en réalité, ce qu'ils ont mis en place et que tu as décrit longuement, c'est l'inquisition. Ils ont remis sur nos gueules une inquisition au service de l'idolâtrie du juif dans tout le monde occidental. Ça, et je ne comprends pas comment des gens qui se réclament de la laïcité, qui se disent laïcs, qui crachent à gauche et à droite, ces gens n'ont pas l'air de se rendre compte de ce qui nous tombe sur oui. le dos, mais sur le leur aussi.
C'est-à-dire que c'est en fait, ça reprend le schéma du système catholique médiéval, on va dire du temps du Moyen-Âge, en version contemporaine, mais juive. Avec tous les attributs que ça suppose, et y compris la coercition judiciaire, et notamment pour les incroyants, c'est-à-dire que ceux qui n'ont pas la foi et qui le revendiquent, donc qui sont des apostats, sont persécutés par les tribunaux. Si en France, si demain vous dites « je ne crois pas aux chambres à gaz », c'est bidon, en place publique, votre vie va être détruite, faut en avoir conscience. Hein. Donc ce que tu dis est très très juste.
D'autant plus que si l'on compare avec l'Inquisition, pour ceux qui connaissent ça un peu, l'Inquisition ne menait pas au bûcher. Elle ne menait au bûcher que par l'intermédiaire de la justice locale, la justice civile, je vais dire. Hein. Or, c'est exactement le procédé qu'ils ont employé en chargeant nos gouvernants d'établir ces fameuses lois
oui.
qui sanctionnent l'antisémitisme. C'est exactement une inquisition à grande échelle. Et nos tribunaux se chargeront de nous mener au bûcher, ce qu'ils font déjà.
Oui, c'est
très juste. Ouais. Ce qu'on appelle livrer au bras séculier.
C'est ça.
Voilà.
Donc là, c'est très clair. Donc c'est une contrefaçon du système catholique médiéval, c'est une contrefaçon juive, hébraïque. Les monarques se précipitent, alors aujourd'hui on dit président, premier ministre, en Israël, le périmètre est clair, et le projet est encore plus clair, hein, c'est-à-dire que c'est vraiment l'éradication des populations blanches. Hein. C'est-à-dire que c'est raciste, regardez bien qui parle. Ce sont les juifs, en Israël, regardez ce qu'ils font chez eux, ils ont des murs, vous n'en voyez même pas la fin tellement ils sont grands. Quoi. Il n'y a pas un arabe qui passe chez eux, hein, je veux dire. Tout est supervisé, tout est contrôlé. Quand il y a des arabes qui s'approchent trop près de leurs frontières, ils tirent à vue. Ils les butent comme des lapins, ils en ont rien à foutre. C'est ça, ces gens-là. C'est eux qui viennent vous dire, attention, là, le migrant, là, faut le laisser passer. Hein. Ouais, et quand je dis ça, c'est pas une image. Klarsfeld, sous Sarkozy, avait été chargé de mission pour déterminer la politique à mener pour les sans-papiers. Klarsfeld, le garde-frontière israélien. Non, mais vraiment, je veux dire, il faut vraiment voir où on en est, quoi.
Et non, mais le symbole est extraordinaire.
Ah, mais...
Non, mais il y a... Tu sais, t'as des petits éléments comme ça. Quand tu les prends, tout est là, quoi. C'est des pages et des pages dans une coquille de noix. C'est... Moi, je suis très attentif aux symboles. Et c'est vrai que lui, c'en est un. Comment on appelle ça chez les juifs? C'est la chutzpah, c'est ça?
La chutzpah, ça, c'est le culot des juifs, ouais. Alors, simplement, maintenant, et on en termine pour aujourd'hui. Bon, c'est bien beau, l'allégeance est faite, la démonstration de puissance est faite, les juifs espèrent que les goyes dans les pays respectifs vont être effrayés par la menace de l'Inquisition, comme l'a bien expliqué Fulbert. Mais il n'y a pas que ça, parce que les juifs ont un projet, notamment en Iran. Et Netanyahou s'est fait fort de la présence de ses 50 chefs d'État pour dire, bah écoutez, maintenant, voilà, vous êtes nos vassaux, hein, vous le reconnaissez, nous sommes vos maîtres, hein, la déification du juif a été actée par tous les présents, et maintenant, il va falloir passer à la phase suivante. Et la phase suivante, la voici. Reuters, hein, dépêche Reuters, le régime iranien est le plus antisémite du monde, a déclaré jeudi Benjamin Netanyahou lors des cérémonies organisées à Jérusalem pour le 75e anniversaire de la libération du camp d'extermination d'Auschwitz, le dernier ferme la porte en sortant, hein, qui se sont déroulées en présence de nombreux chefs d'État et de gouvernement. Parmi les invités réunis au mémorial de Yad Vashem figuraient notamment le président russe Vladimir Poutine, ses homologues français et allemands Emmanuel Macron et Frank-Walter Steinmeier, ainsi que le vice-président américain Mike Pence et le prince Charles. Au cœur de la création de l'État d'Israël se trouve le commandement suivant « Il n'y aura pas d'autre holocauste ». En tant que Premier ministre d'Israël, c'est mon plus grand engagement, a déclaré Benjamin Netanyahou avant de s'en prendre à la République islamique donc d'Iran, dont les ambitions nucléaires menacent selon lui l'existence même d'Israël. Je crains que nous n'ayons pas encore de position unanime et résolue à l'égard du régime le plus antisémite de la planète, un régime qui cherche ouvertement à développer des armes nucléaires et à anéantir le seul et unique État juif. Il y en a un petit peu plus quand même, hein, a-t-il déploré. Israël salue le président Donald Trump et le vice-président Pence pour avoir affronté les tyrans de Téhéran, a poursuivi le chef du gouvernement, évoquant le retrait américain de l'accord sur le programme nucléaire iranien en 2018. L'État d'Israël, a repris Benjamin Netanyahou, a tiré les leçons de l'Holocauste. Il prend donc au sérieux toutes les menaces de ceux qui sont voués à notre destruction et veille à rester en mesure de se défendre, fustigeant lui aussi la République islamique d'Iran. Mike Pence lui a reproché d'être le seul pays à nier l'Holocauste et a menacé de rayer la carte Israël de la carte. Bon.
Ah ben voilà.
Prochain arrêt, Téhéran, on a bien compris. Hein. Voilà.
Je suis désolé, Gandalf, je t'interromps, mais là, je t'avoue franchement que ces propos sont carrément répugnants. Mais quand je dis répugnant, c'est à un point, mais ça en dépasse toute logique. Il faut savoir, parce que bon, le problème, c'est que tout le monde parle de l'Iran, mais très peu de personnes connaissent réellement ce pays. Il faut savoir que la constitution iranienne garantit aux juifs, aux gars qui pratiquent la religion de Zarathoustra, et toute une quantité phénoménale de religions qui ont pignon sur rue en Iran, ils ont la garantie de pouvoir exercer leur religion en toute sécurité.
Oui, oui, tout à fait.
Moi, je voulais dire que l'article que tu as lu, c'est l'officialisation d'un nouveau Pourim.
Oui, 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 oui.
C'est-à-dire, pour ceux qui ne sauraient pas, événement relaté par la Torah, hein, l'Ancien Testament juif, du massacre d'environ 75 000 Perses par l'intermédiaire d'une juive, par les agissements d'une juive, Esther, qui avait séduit le roi de Perse et qui avait manigancé. C'est un Pourim moderne.
C'est tout à fait juste. C'est-à-dire que c'est une juive qui couchait avec le roi de Perse et qui a intrigué pour faire génocider les patriotes qui voulaient libérer la Perse de l'occupation juive qu'ils subissaient. Et elle a réussi à convaincre le roi de les faire génocider. Donc, il y a eu la destruction des patriotes. Et encore
ça fait partie, c'est la Bible hébraïque, ça. Hein,
c'est pas une théorie.
C'est la Bible. C'est la Bible.
Oui, et puis c'est une fête. C'est une fête religieuse de Pourim. Les juifs sont les seuls à avoir pour fête religieuse un génocide. Ce sont les seuls, il n'y en a pas d'autres, d'accord ? La fête de Pourim est célébrée, voilà, le plus officiellement du monde. Et ce que dit Netanyahou, c'est qu'on va rééditer ça. Alors en plus, le type te dit, c'est un État qui menace d'avoir l'arme nucléaire. Ah oui, l'État d'Israël, il n'a pas l'arme nucléaire, tiens. Et c'est pas un État qui soutient des guerres d'agression par le truchement des Juifs de Washington, qui détruisent un État après l'autre dans le Moyen-Orient depuis 30 ans. Vous voyez, tu vois, et c'est ces gens-là qui se disent menacés. Je veux dire, c'est comme quand ils sont chez vous en France, vous voyez. Les mecs contrôlent l'appareil d'État, d'accord, en France, ou dans d'autres pays, mais aux États-Unis, et les types te disent, on est menacés, là, on est vraiment des victimes, tu sais. Et ils vont désigner un tel qui a écrit un truc peut-être sur un mur, et ils veulent l'écraser. Ce qui te donne Bernard-Henri Lévy, par exemple, si vous n'avez pas vu cette scène écœurante, tu vois Bernard-Henri Lévy qui va dans un tribunal où il y a un pauvre poivreau blanc qui s'est battu avec un Algérien est mort, et Bernard-Henri Lévy assure à la barre, le mec qui connaît pas le dossier, assure à la barre que le type est un sale raciste et qu'il faut lui foutre 30 ans incompressible, quoi. Et le mec se pose en victime lui-même, hein, en tant que juif, quoi. Mais cette race. Et le problème, c'est pas un premier ministre israélien qui délire dans son coin. Il y a 50 chefs d'État qui sont à ses pieds. Et qui disent, voilà, oui, la déification du juif, oui, la vision du monde juif, oui, l'expiation pour toujours, oui, oui, dites-nous ce qu'il faut faire, on va faire, oui, voilà. Et le mec, il dit, ah ben, maintenant, faut être cohérent. Faut être cohérent. Voilà. L'Allemagne, on l'a détruite, il fallait la détruire. Bon, ben, l'Iran aussi, il faut détruire l'Iran, voilà, il faut détruire l'Iran. Il n'y a pas le choix, il faut y aller.
Est-ce qu'on ne devrait peut-être pas donner une petite explication à propos? On a dit c'est la Bible, la Torah, etc. Mm-hmm. Il y a peut-être une explication intéressante ou relativement courte à donner aux gens qui nous écoutent. Parce que je suppose que tout le monde ne connaît pas les origines de l'Ancien Testament.
Vas-y.
L'Ancien Testament est une traduction de la Torah des Juifs. Il existe, je fais court hein, ici, il existe deux versions principales de cette traduction. L'une nous vient des Grecs en quelque sorte, et plus précisément du pharaon grec d'Égypte, Ptolémée Ier, et de la fameuse bibliothèque d'Alexandrie, qu'on appelle la Bible des Septante. Pourquoi ? Parce que voulant que le livre traduit soit juste, et sachant que les Juifs se tapaient sur la gueule à qui mieux entre tribus à l'époque, Ptolémée avait recruté ou fait recruter 6 érudits parmi chacune des 12 tribus d'Israël. Donc il y avait normalement 72 érudits pour procéder à cette traduction. De là l'appellation la Bible des Septante. Ils ont dû en perdre deux dans le chemin. Et cette Bible traduite en grec s'est retrouvée en usage principalement dans les pays qui emploient une écriture cyrillique, donc qui vient du moine Cyrille, qui était un moine grec, donc la Bulgarie, la Russie et sans doute encore un ou deux autres pays à l'est de l'Europe. Et par contre, quelques siècles plus tard, lorsque
Rome... C'est la Vulgate chez nous.
Pardon ?
Attends, laisse-le finir.
Par contre, quelques siècles plus tard, les Juifs qui se rendent toujours là où se trouve le centre du monde et où se trouve la richesse, se retrouvent à Rome. Et là, ils vont publier des traductions en latin de la Torah. Il y aura plusieurs traductions par plusieurs groupes juifs, les rabbins bien sûr. On appelle ces traductions les textes massorétiques. Et ce sont ces textes-là, une combinaison de ces textes, qui vont faire l'Ancien Testament tel que nous le connaissons en Europe de l'Ouest. Ce qui explique pourquoi les peuples d'Europe de l'Est sont nettement plus antisémites que les peuples d'Europe de l'Ouest, si vous m'avez bien compris.
Intéressant. Intéressant. Encore que, dans l'histoire, l'Europe de l'Ouest a été aussi furieusement antisémite. Hein.
Oui, mais même, j'ai envie de dire...
assez récemment, en fait.
Presque plus, même. Hein, en tout cas, sur l'histoire, au niveau du Moyen-Âge, la France, hein, en particulier, était férocement antisémite. Hein,
mais si les Juifs s'acharnent tant sur la France, ce n'est pas non plus totalement par hasard, attention. Hein,
Non, parce qu'ils ont quand même énormément prospéré dans dans ce qu'on appelle le Yiddishland. Hein, c'était quand même le coin où ils ont le plus magouillé, le plus inséminé leur poison hein, au cours des derniers siècles. Donc j'entends bien, je connais un petit peu les disputes qu'il peut y avoir entre les partisans de la Septante au niveau de la traduction biblique et de la Vulgate, hein, donc qui est la traduction communément acceptée que ce soit du côté catholique ou protestant, côté occidental, on va dire. Il y a des différences, c'est exact. Je suis pas à même de faire le... Enfin, de dire qu'est-ce qui est mieux, qu'est-ce qui est moins bien. Mais, les peuples... Le peuple français, enfin, la France, au niveau de l'antisémitisme, on a de leçons à recevoir de personnes.
Absolument. Mais oui, certes, je ne dis pas le contraire. Mais par ailleurs, il faut bien reconnaître que dans la période plus ou moins moderne, c'est-à-dire 20e siècle, 19e siècle, les pays vraiment à l'antisémitisme bien chaud c'était quand même la Roumanie, la Pologne et la Russie.
C'est vrai.
Bah, ils étaient quand même salement touchés. Hein. Claude Réanou, il faut voir la juiverie qu'il affrontait. Hein. Il y a des passages de Rebattet là, quand il passe en Roumanie. Dans les ghettos, il fait des descriptions des ghettos en Roumanie. Oh là là.
Mais cette pourrie,
vous n'avez pas idée, cette pourrie, mais c'est... Ah, il le décrit formidablement, mais... Attendez, faut quand même voir à quoi on a affaire, quoi. Alors, quand tu vois ce que tu vois aujourd'hui, de voir tous les États occidentaux à genoux devant cette sous-race, et qu'ils en manquent pas encore assez, qu'il faut encore une guerre, et que c'est une guerre contre l'Iran, avec tout ce que ça suppose... Ces démons n'arrêteront pas.
Non, c'est pas qu'ils font une guerre contre. Ils veulent qu'on.
Ils veulent qu'on la fasse pour eux, bien sûr. Oui, tout à fait.
Donc, qu'ils fassent la guerre à l'Iran quelque part, je n'ai rien à foutre. Bon, c'est bon.
Ah oui, non, mais c'est-à-dire que c'est pas le genre de conflit où tu vas rester dans ton coin. C'est pas comme ça que ça fonctionne.
Malheureusement. Donc, malgré nous, nous sommes partie prenante.
Voilà. Ouais, c'est... Les guerres juives ont cette particularité qu'à la fin, ce ne sont pas des soldats de Tsahal qui meurent, mais souvent des GI.
Effectivement, oui, enfin des blancs en général, hein, oui. Enfin bon, en tout cas, le programme est annoncé. Alors voilà, nous sommes dans une théocratie juive, à ceci près qu'en fait, il n'y a pas de dieu éthéré, hein. Yahvé, en fait, tel qu'ils en parlent, c'est les juifs, non, enfin c'est les juifs, c'est la race juive en fait, le dieu, hein. Le dieu des juifs, c'est la race juive, hein. Voilà, ils ont divinisé leur propre race. Avec l'aval donc de ce qu'ils appellent les démocraties, qui est en fait hein, leur état à eux, quoi, imposé aux goïm. Pour se séparer, vous voulez rajouter quelque chose sur tout ce qu'on a dit, ou petite note de conclusion?
Oui. Voilà.
Diabolix.
En fait, je propose que nous réalisions une collecte pour pouvoir installé devant le camp de concentration d'Auschwitz, une énorme statue en bronze du très respecté professeur Fourisson.
Ah, je suis tout à fait preneur.
Pourquoi pas, après tout, c'est bien lui qui a découvert les plans.
Quelqu'un d'autre ? Je vous sens exalté par les projets des Juifs.
Ah, moi, moi, l'idée de Diabolix, là, me trotte. Ça me parle beaucoup.
Oui.
Bah oui, j'ai...
au cas où vous ne l'auriez pas su, Angela Merkel a annoncé 60 millions d'euros pour procéder à la restauration du site d'Auschwitz. C'est 60 étonnant. Millions. Pour 6 millions, 60... si vous n'avez pas compris. Hein.
Ah, tiens, avant qu'on se quitte, peut-être, on a parlé la semaine dernière de Thierry Lhermitte qui allait jouer Derrick, hein, au cinéma. Là, il faisait sa promotion ce dimanche chez Michel Drucker, le fils du contrôleur
disons que c'était le
contrôleur de Prépus.
C'était le médecin juif de Drancy qui disait qui allait à l'Est et qui n'y allait pas.
C'est ça.
Et qui avait la chance surtout d'être abrité à Drancy, parce qu'au départ, ce n'était pas un camp de déportation ou quoi que ce soit. C'était un abri qui évitait aux Juifs, qui craignaient d'être harcelés parmi les chrétiens, de vivre en communauté avec d'autres Juifs.
Un ghetto, donc.
C'était un ghetto, exactement.
Dans l'habitude. Et donc, bon, Drucker accueillait l'ermite, le boomer, quoi.
Attention, l'ermite est partiellement d'origine juive, attention. Hein.
Ah, c'est intéressant. Alors, ça explique beaucoup de choses. Parce que Thierry l'ermite, donc, présentait sa nouvelle pièce de théâtre sur des textes de Simon Wiesenthal.
Je comprends mieux pourquoi il n'aime pas les majorettes. Hein.
Ah, et alors c'était une explosion d'hébraïsme.
Ah voilà, bah ouais.
C'était
vulgarité séfarade.
Et même Drucker était gêné avec sa gueule de youtre. Il dit, tiens, lui avec sa gueule là, qu'est-ce qu'il veut? Et donc il était là, Simon Wiesenthal, Simone Veil, comme disait Nelson Mandela, blablabla. Oh putain, mais c'est Et les négationnistes qui disent.
Non, mais ça les travaille. Ça, c'est les travaille.
Ah oui, ça parlait. Donc, tu avais l'historien officiel de la radio française, Franck Ferrand, qui est venu aussi. Particulièrement mal habillé, encore une fois. Non, mais ces gens-là, je suis désolé. Moi, je remarque, ces gens-là sont mal habillés, ils sont mal sapés. Ils ont aucun goût. Et donc, ils étaient en noir, en plus, c'était très morbide, hein, que ce soit.
C'est un peuple morbide, hein, c'est un.
Ah, mais c'était très morbide, et puis ils étaient là. Alors c'était exceptionnel. Et tu avais le Ferrand, là, avec ses épaules absentes, et son costume noir, donc de croquement.
Ils ont son caftan, donc, oui.
Qui parlait, qui évoquait ces chiffres extraordinaires. Incroyable, 6 000 morts par jour, hein, en Auschwitz. c'est des chiffres qu'il qualifie lui-même d'incroyables. Alors bon, c'est incroyable, mais il faut y croire.
Noyé dans la piscine, peut-être.
N'importe qui, normalement constitué, devrait exploser de rire. J'ai explosé de rire. Hein, ce genre de spectacle, je suis assez client, moi, il faut le dire. Et donc Ferrand, le boomer éternel là, qui est en train d'être
juif,
qui est fossilisé, donc judéo-boomer Thierry Lhermitte, qui vendait sa pièce de théâtre où il lisait des textes de Wiesenthal, où il cite Simone Veil, il cite Mandela, et puis les négationnistes là. Mais l'Holocauste, c'est la période la plus documentée de l'histoire.
Ah ouais, c'est
tellement documenté que quand on donne des documents, eh bien, on va en prison comme Vincent Renoir. Hein, c'est assez particulier comme approche, mais voilà. Avant qu'on se quitte, je tenais à faire partager avec nos auditeurs cette affreuse scène à laquelle j'étais témoin.
Et donc, il va bientôt jouer le rôle d'Horst Mahler, hein, vétéran donc, de la SS.
Vétéran de la SS qui jouait le glorieux Derrick, dont voilà. Je me suis inspiré.
Donc, vraiment pour mesurer à quel point ces vampires ont besoin de s'emparer de tout, en fait.
Je pense que si Horst Tapper n'avait pas été déclaré, n'avait pas été trouvé comme étant patriote allemand, eh bien, il n'aurait jamais eu cette tentative de
subversion.
On va laisser, Derrick, c'est très bien, ça, c'est bien pour les vieux. Mais là, non, c'est un nazi, donc je pense qu'on va nous trouver du Derrick qui va sauver des juifs, ou peut-être que Derrick aura une fille qui va se faire enculer par un nègre. J'espère un petit peu de progrès, ça serait bien que les Allemands se civilisent un petit peu.
Oui.
Francisent. Franciser les Allemands, c'est un projet. Nous avons depuis 1917, général Mangin, qui est très, très, très à l'avance de la civilisation.
Mais l'idée de statue de diabolique, c'est vraiment très bonne. Parce qu'à une époque comme la nôtre, où le flot d'informations est tel qu'on oublie ce qui s'est passé l'avant-veille, je rappelle, puisqu'on a cité le Vatican aussi, que le Vatican, il y a quelques mois, l'antipape Bergoglio avait laissé installer une statue de Moloch Baal au Vatican. Que, rappelez-vous, enfin, vous ne savez peut-être pas. C'est vrai. Hein.
C'est Pachacama, c'est le truc Pachacama.
La Pachamama.
Non, il y avait une statue de Moloch Baal.
Carrément.
Oui, mais il semble. Là, moi, je ne
me confonds pas avec un nègre qui se fait baiser les pieds.
Apparemment pas.
D'après ce que j'ai lu, je ne suis pas très connaisseur, mais d'après ce que j'ai lu, il y a une petite astuce dans l'histoire que je n'expliquerai pas, on est trop loin, mais Yahvé trouverait ses origines dans la religion, je ne sais plus si c'est assyrien ou chaldéo-assyrien, de l'adoration de Moloch Baal. C'est pour ça que je le cite.
Oui, enfin, c'est composite, mais en gros, il y a des discussions, mais ça se Ça semble s'affirmer de plus en plus
Les Sumères, etc.
Non, il y avait une confrontation à l'intérieur des tribus d'Israël aux alentours du 7e siècle avant Jésus-Christ. Il y avait un monarque qui tenait le monothéisme. Il y avait d'autres chefs de tribus qui étaient encore polythéistes. Il y a eu un affrontement et puis il y a eu un mélange. Voilà. Ça nous amènerait trop loin. Mais disons que c'est pour des raisons politiques que le monothéisme, c'est un outil politique. C'est un outil de terrorisme politique, en fait, contre d'autres tribus rebelles. Non, mais voilà, mais ça vient de là. C'est un proto-bolchevisme. Voilà. Il y a des auteurs là-dessus qu'on pourra citer.
Les mêmes genres au milieu.
Oui, le bolchevisme, c'est une histoire de 4000 ans. Le bolchevisme a 4000 ans. Les gens doivent savoir ça. À la semaine prochaine, les amis.
À la semaine prochaine.